Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques à Austin. Le grand retour après plein d'années déjà. Eh oui.
21 ans.
Non,
ça fait 21 ans, je suis dit, le dernier Grand Prix des États-Unis, c'est en 91, je sais plus où, mais voilà.
À Indy, c'était un Grand Prix des États-Unis.
Non, à Indy, c'était pas un Grand Prix.
Oui, ça se tient, oui, en effet.
Non,
oui.
Mais le pire, c'est que j'adore les circuits d'Indianapolis, donc voilà. C'est généralement là que je fais ma première victoire dans les jeux de F1.
Quand même. Dino, nous ne sommes pas seuls pour ce grand retour au pays des cow-boys.
Non, nous ne sommes pas seuls. Et j'ai envie de te dire, Shiji, nous ne sommes pas avec n'importe qui.
Non.
Ah bah non, non, parce que nous sommes avec presque tout et n'importe quoi. Bonsoir, presque tout et n'importe quoi.
Bonsoir, messieurs.
Bon, son vrai nom, c'est Jay, mais pour faire plus court, on l'appelle maintenant presque tout ou n'importe quoi.
J'ai eu le malheur de dire que je pouvais répondre à presque tout et n'importe quoi comme nom, et du coup, voilà comment ça part.
Voilà.
C'est honteux ce que tu fais.
Ouais, mais c'est pour ça que je réponds à tout et n'importe quoi, parce qu'il y en a qui m'appellent Jay, il y en a qui m'appellent GG, il y en a d'autres qui m'appellent Jérémy, par le prénom entier et le prénom légal. Mais voilà. Il y a pas de souci.
Quand il a affaire à la police, il s'appelle Jérémy.
Ouais, non, mais j'ai pas trop affaire à eux, ça va. En Suisse, j'ai une bonne tête, comme depuis à Genève. Je me fais jamais contrôler ou presque, alors.
Oh non, pas en Suisse.
Un jeune voix. Mais je suis français d'origine, je suis né à Paris, ça va.
Non, mais c'est quoi, c'est une différence. Bah, les quelques Suisses que je connais, il fait une différence entre les Suisses et les jeunes voix. C'est quoi la différence?
La différence, c'est qu'à Genève, 50% des gens que tu croises dans la rue sont des étrangers.
Ah.
Ça commence comme ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Avec tous les frontaliers, les gens des boîtes internationales et les compagnies.
C'est Monaco de la Suisse, Genève.
Et c'est un peu ça, quoi. Et puis en fait, Genève, les gens ont l'impression que c'est beaucoup plus gros que la taille réelle de la population. Par exemple, d'après vous, quel est le nombre d'habitants dans la ville de Genève?
300 000.
Ouais, 250 000, 300 000.
C'est exactement ça, plus ou moins, si on compte pas le
temps. On n'est pas
d'effort.
Mais par rapport à leur renommée, souvent, quand on voit les marques qui mettent Paris, New York, Genève, Milan, bah, il y a Genève dans le lot. Et quand on compare Genève à une ville comme Paris, Hong Kong, New York ou compagnie, Genève, c'est un bled, quoi. Ça reste 300 000 personnes, voilà, quoi.
C'est aussi grand que l'agglomération rouennaise, c'est bien?
Non, mais ouais, ben voilà, c'est ça qu'il faut remettre en perspective, finalement, quoi. Mais c'est tellement international et une telle renommée que, voilà.
Donc tu es d'accord, Romain Grosjean est français. Ou au pire, je ne vois, il n'est pas français.
Le problème des Français, globalement, c'est que quand les athlètes binationaux gagnent, ils sont français, et quand ils perdent, ils sont étrangers. Pour moi, Romain Grosjean est plutôt un Genevois, un peu comme moi, totalement binational, parce qu'il est né à Genève et il a été élevé à Genève. Donc,
Et il a dit qu'il se sentait européen. Alors messieurs, comme d'habitude, je vais poser la question, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix? Et puis bien évidemment, qu'avez-vous pensé de ce nouveau circuit?
Honneur à l'invité.
Non, moi le circuit, très sympa. La seule chose, c'est s'ils avaient pu le finir 6 mois plus tôt pour que l'huile du goudron s'évacue un peu,
ouais.
Ça aurait été encore un peu mieux.
Il avait quand même l'air mieux fini qu'en Inde et en Corée. Hein.
Ouais, non.
Il a l'air mieux fini que la Corée cette année.
Ouais.
Oui.
C'est déjà beau.
Bon, les Coréens, ils ont compris. Hein. Après la première année, ils se sont dit, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse encore des trucs dessus, quoi. Vu le nombre de personnes qui viennent et vu ce qui se passe chez eux, vu l'intérêt que ça motive, je peux comprendre. Les États-Unis, les mecs, au bout de, ils avaient même pas fini de construire le circuit, ils avaient juste annoncé les plans. Ils avaient déjà dû prévoir des tribunes supplémentaires parce qu'ils avaient trop de réservations pour les tickets.
Ils ont parlé de 150 000, 200 000 sur le week-end. C'était plein tout le week-end.
À noter d'ailleurs, dans les réservations, il y avait 40% de Mexique.
Ouais. On est au Texas, c'est juste à côté.
Ouais.
On a eu quand même une bonne surprise, c'est dimanche par rapport au dépassement. Parce que, on pensait que ça, on allait peut-être s'ennuyer, et finalement, on a eu pas mal de belles choses.
Mais non, mais justement, je pense que c'est un ensemble de deux choses. À la fois les conditions de piste qui, avec l'huile qui ressortait, avec le côté aussi un peu poussiéreux, qui faisait ça. Et ensuite, c'est ce qu'a dit Paul Ebbery dans les déclarations d'après course. Finalement, ils ont peut-être bien fait aussi de se gourer en me proposant des pneus qui étaient beaucoup trop durs pour la piste, parce qu'il faut savoir que quand Pirelli, ils ont choisi leur pneu pour des raisons logistiques, parce qu'il faut qu'ils choisissent vraiment en avance, ils n'avaient pas encore toutes les informations sur la granulation kilométrée, donc sur l'abrasivité de la piste. Donc du coup, ils ont vraiment joué la sécurité. Et dès vendredi soir, ils disaient, bon, on a été trop sécure, l'année prochaine, on amènera les super tendres à les tendre. Parce que c'est vraiment, la piste est vraiment très très lisse et très peu abrasive. Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui a joué en la faveur des dépassements, c'est que la piste étant peu abrasive, mais en plus un peu glissante à cause de la poussière et à cause de l'huile qui était encore dans le bitume, fait que l'équilibre pour les monoplaces était toujours un peu précaire à trouver. On a remis vraiment en avant le rôle des pilotes. Je crois que c'est Hülkenberg vendredi matin qui disait c'est quasiment pire que quand il pleut. Et donc du coup, on a vu des trajectoires différentes, des micros erreurs.
On peut remercier la largeur de la piste, parce que si la piste avait été moins large, ça aurait été déjà aussi un autre problème. La piste étant très large et étant spécialement dessinée et adaptée aux Formule 1 modernes, elle a été suffisamment large pour que...
Ouais, mais l'Inde est large.
C'est vrai, mais pas les mêmes virages. Pas forcément les mêmes virages non plus, quoi.
Je pense, par contre, faut se méfier. Je pense que dans les années à venir, voilà, on a une très belle course week-end, mais je pense que dans les années à venir, va falloir se méfier. On va peut-être avoir des courses beaucoup moins intéressantes.
De toute façon, là, c'est la première année. C'est-à-dire que le vrai test, c'est l'an prochain. Que ce soit pour la piste, que ce soit pour le public, pareil, c'est l'an prochain qu'on verra si ça a pris ou pas.
Exactement.
Ah, non, mais ils ont mis des
j'allais dire, avec Perez chez McLaren, ça devrait.
Les Américains sont toujours au rendez-vous.
Ouais, puis avec Perez chez McLaren, ça devrait le faire.
Ouais, c'est vrai que ça devrait être pas
quand
mal.
Quand il arrive, il y a eu 50 000 cette année, qui sont venus, c'est ça que tu m'as dit?
Il y a 40%.
Ouais, bon, l'année prochaine, ils peuvent même monter un peu plus, avec Perez chez McLaren qui peut nous faire des victoires. Peut-être. En tout cas, lui, il se voit changer du monde, alors.
Non, mais déjà, Button ne croit pas aux victoires Perez,
oui,
alors.
C'est bien parti, tout ça.
L'ambiance, ça va être sympa, quoi. Il n'est pas encore arrivé. Button, il a été moins gentleman qu'il ne l'a été avec Hamilton, hein, pour sortir ses déclarations.
C'est normal aussi, il marque son territoire. Il a l'occasion de devenir quand même le patron
chez
McLaren.
Oui, mais il peut
McLaren.
Très bien pousser dans tous les coins du stand de McLaren. Il n'est pas obligé forcément de s'épancher dans la Bresse.
Ouais, parce que lui, en plus, il est toujours. C'est pas un des pilotes qui est connu pour sa langue acerbe et ses commentaires à la Jacques Villeneuve, quoi. Lui, il est plutôt toujours gentil. Oui,
non, mais bon. Pour remettre un peu dans le contexte, ce qu'il dit, c'est qu'il pense pas que Perez va gagner immédiatement et que ça va surtout être une saison, grosso modo, d'apprentissage. Il faut qu'il prenne ses marques et compagnie. Ce que dit aussi Martin Whitmarsh, il dit qu'il peut pas gagner immédiatement. Il faut d'abord qu'il prenne de l'expérience et une pression différente. Il y a d'autres challenges qu'il doit gagner avant de pouvoir gagner des courses. Après, il peut très bien arriver en Australie et gagner en Australie.
S'il gagne en Australie, je te dis pas le buzz que ça va faire. Messieurs, ce dimanche, nous étions le 18 novembre.
Oh, vivement la fin de saison.
plus qu'une, enfin plus que deux, avec
oui,
celle-ci.
Bah ouais.
Hein. Et qu'est-ce qui s'est donc passé un 18 novembre? Eh bien, nous allons le savoir dès maintenant.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et messieurs, le chiffre de la semaine est un petit chiffre, un chiffre tout simple, le chiffre 7.
Est-ce que c'est un nombre de jours? C'est l'invention de la semaine par Nicolas Copernic en 1527.
Non.
C'est une mesure.
Oui.
Est-ce qu'il y a une unité de mesure derrière?
Oui.
Donc c'est 7 unités de moteur, de quelque chose comme ça, quoi.
Non,
c'est
non,
pas
c'est
des personnes. Oui, non, mais c'est un truc physique, genre 7 arbres, 7, c'est voilà, quoi.
Ouais, c'est même une unité de mesure.
Est-ce que c'est une distance?
Non.
Un poids?
Non.
Un volume?
Non.
Une durée?
Oui.
Des heures?
Non.
Des minutes?
Oui.
7 minutes, le nombre de
enfin, minutes. Précis, si j'avais été très précis, ça serait 7 minutes 15. Voilà.
C'est le nombre de minutes de pub qui a le droit pendant un Grand Prix de Formule 1.
Oh non, il y en a plus que ça. Il y a 2 heures de pub.
C'est la longueur des pubs.
Est-ce que c'est lié à un exploit?
Non, on peut pas dire que c'est un exploit.
Est-ce que c'est le temps que mettrait un satellite ou un truc comme ça à tourner autour de la Terre et de faire une révolution autour de la Terre?
Non.
7 minutes. L'événement qu'on cherche, c'est il s'est passé un truc un 18 novembre qui a duré 7 minutes.
Une éclipse solaire?
Oui, enfin, il a... Oui.
C'est une éclipse solaire ou une connerie du genre?
Non, non. Mais ça s'est reproduit après, ça durait toujours 7 minutes. Hein.
Et c'est toujours les 18 novembre ou non, c'est égal?
Ah non, c'est juste que ça a commencé un 18 novembre.
Ça a eu lieu une première fois un 18 novembre, mais depuis ça dure toujours 7 minutes 15.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est célébré, puisque c'est pas toujours...
Pour certaines personnes, c'est célébré.
Est-ce que c'est la même personne qui le fait à chaque fois?
Il n'y a pas vraiment une personne qui le fait. Si j'étais très pointueux, je dirais non, mais partez pas là-dessus.
C'est fait par un objet.
Oui, oui, on peut dire que c'est fait par un objet. Même si ça peut aussi être considéré comme immatériel.
C'est fait par un objet, enfin, par une substance miniature. Genre un électron, un neutron, ou un truc dans le genre.
Non.
Non, parce que je sais qu'il y a pas longtemps, on a eu une conversation où on a parlé du super accélérateur, là, qui est en Suisse. Et ça, il fait le tour en 7-15. C'est pas ça?
Non.
C'est immatériel. Ça peut être immatériel, c'est ça qui me perturbe. Ça peut être immatériel.
On utilise un objet pour le pour
Oui, il faut un objet, mais ça peut aussi être considéré comme immatériel.
Est-ce que c'est alors pour faire les 7 minutes 15, c'est faire un tour en 7 minutes 15? Est-ce que c'est effectuer une rotation?
Non.
Mais il pourrait le faire deux fois à la suite. Il en faut 7 minutes 15 pour en faire un et après il en faut 7 minutes 15, mais ça peut pas être des événements qui sont
ponctuels.
Enfin voilà, c'est seulement tous les 6 mois ou tous les 8 mois ou
Ah non, ça peut avoir lieu à tout moment. Et ça peut même avoir lieu à deux endroits différents. Ça durera toujours 7 minutes 15.
C'est tendu une marée pour faire je sais pas quoi sur une marée. Mais non, pas la première. Bon, 18 novembre, la première fois. 18 novembre de quel siècle? 21e siècle? La première fois qu'elle a été faite?
20e siècle,
on va affiner.
20e siècle.
Début du siècle ou fin du siècle? Avant 50
c'est une
ou
découverte
après
d'un phénomène.
Je vais dire non.
C'est avant 1950 ou après 1950?
C'est avant 1950.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été découvert, ça a été créé en 1950 ou dans la première moitié du 20e siècle, ou c'est quelque chose qui existait avant même qu'on ne le découvre. Un phénomène naturel.
Ah, c'est pas un phénomène naturel. Je sais pas pourquoi vous êtes partis dans la physique chimie là, les gars.
Mais c'est toi qui nous est parti, qui nous est fait le... Oui, c'est matériel, mais en même temps, ça peut être immatériel.
Et ça a été découvert, fait la première fois, première partie du 20e siècle. Bon,
C'est quelque chose qui a été inventé, donc.
Oui.
Par un Français?
Non.
Ça n'est même pas.
Par un Européen?
Non.
Par un Américain?
Oui.
Donc c'est un Américain qui a inventé quelque chose, qui fait une action en 7 minutes 15.
Ça a un rapport avec l'électricité? Thomas Edison ou Volta?
Ça n'a pas un rapport, mais il faut de l'électricité.
Donc c'est quelque chose qui fonctionne avec l'électricité.
C'est Thomas Edison l'inventeur?
En tant que tel, ça a besoin... Non, c'est pas Thomas Edison.
C'est le premier... C'est la longueur du trajet sur le premier métro électrique.
Non.
Mais c'est un truc du genre.
C'est le temps qu'il faut pour une transmission des États-Unis en Europe par le câble sous-marin pour faire du
courant. Non, ça a besoin d'électricité. Après, c'est pas un engin électrique. Hein.
C'est un engin à moteur?
Bah, il faut un moteur pour que ça marche. Un moteur
électrique, ouais.
Donc c'est une voiture?
Non.
Un avion?
Non.
Mais ça peut marcher autre chose que l'électricité, ça peut marcher au thermique.
Je suis pas sûr que ça existe au thermique.
Ok.
Mais là, c'est pareil, vous partez dans un truc...
Mais il faut dire aussi que les indices ne sont pas clairs.
Mais vous posez pas les bonnes questions.
Donc c'est un truc, on résume, c'est un truc qui a été inventé au début du 20e siècle.
Qui dure 7 minutes pour être fait.
Voilà.
C'est un truc qui est apparu ou qui a été inventé, je dis, sois clair. Donc si c'est apparu, c'est que c'était naturel.
Non. Mais c'est pas une invention, si tu veux. C'est pas une invention technique qui est apparue un 18 novembre.
C'est un événement qui dure 7 minutes 15.
Et qui peut maintenant être fait n'importe où dans le monde.
Ah oui.
Mais qui la première fois a été fait là-bas et qui dure qu'il arrive encore 7 minutes 15. Donc ça n'a pas évolué le temps pendant toute la période.
C'est la première page de pub sur TF1. Elle durait déjà 7 minutes 15.
Alors, ce dont on parle, il en existe de plein d'autres versions, de plein d'autres durées.
Première transmission télé?
Non, mais on s'approche de ce genre de choses.
Le premier direct?
Non.
Première diffusion?
Non.
Le premier JT?
Non plus.
Mais c'est lié au monde de la télé?
Pas exactement la télé.
Du cinéma?
Plutôt le cinéma, oui. D'où le côté que ça a besoin d'une machine pour que ça vous puissiez le voir.
Ouais, ok. C'est
la première bande annonce.
Genre la logique d'actualité avant le film.
Non.
Le premier dessin animé.
Alors pas le premier dessin animé, mais c'est lié.
Le premier Walt Disney.
Faut être plus précis.
Le premier film d'animation de Walt Disney.
Plus précis que ça.
Je sais pas. Le premier.
Mickey Mouse.
Ouais, le premier, la première adaptation de Mickey à l'écran.
Le premier dessin animé avec Mickey.
avec Mickey. Ok. Ça a duré cette.
On était parti sur des trucs super développés.
Mais alors. En effet, le 18 novembre 1928 était diffusé ce qu'on considère aujourd'hui comme la naissance de Mickey Mouse hein, dans le court-métrage donc d'animation qui durait 7 minutes 15, qui s'appelait Steamboat Willie, qui s'avère aussi être le premier dessin animé avec du son synchronisé, donc avec de la musique.
Ooh.
Voilà, d'où aussi le côté innovation technique quand même. Mais c'était pas, voilà. C'est pas...
Non, mais quand même, t'as été bizarre dans tes réponses à ce, parce que moi j'étais parti sur l'idée quand même que c'était quelque chose à chaque fois de différent, qui pouvait être fait par quelqu'un de différent et qui durait quoi qu'il arrive 7 minutes 15. Mais en fait, c'est le même truc. Il y a qu'un seul truc qui dure 7 minutes 15.
Oui.
C'est seulement
si la sur tes réponses, sur tes réponses, tu nous as un petit peu entraîné dans l'erreur quand même.
C'est pas le même projectionniste qu'en 1928.
Oui, non mais ça c'est quand même très subtil. Ah, t'as fait la mijeure et sort d'autres trucs. Oh mais non, ça serait vous tromper. Puis là, t'as pas hésité à nous envoyer dans le mur quand même.
La 7 minutes 15, c'est la version originale ou la version adaptée? Parce qu'avec leur différence de frame rate, de nombre de d'images quand ils
numérisent. Non, c'est bien du, là c'est bien du 24 et tout. C'est 7 minutes 15.
Oui, c'est pas encore Bilbo le Hobbit.
Non, parce que, je rigole pas, hein, mais il y a une des premières vidéos qu'ils ont récupérées de je sais plus de quoi, la version, elle durait 15 secondes, c'était une promenade dans les jardins, et en fait, ouais, avec le framerate et les machins, ils ont réussi à en faire une version longue de 17 ou 18 secondes. Hein.
Eh ben, justement, on en éphéméride.
Putain, je suis dit, ton éphéméride sert en quelque chose.
Ouais, c'est effrayant, c'est effrayant. Donc, Steamboat Willie, diffusé pour la première fois à New York, le 18 novembre 1928, en première du film Gang War, que tout le monde a oublié. Non, c'est vrai. Alors il sort à cette époque, vous savez, c'est celle qu'on raconte dans The Artist, hein. Le premier long métrage avec les séquences de dialogue, à l'époque il a un an, il est sorti en octobre 1927, c'est le chanteur de jazz, et c'est à ce moment-là aussi où Walt Disney en fait perd les droits d'un personnage qui s'appelle Oswald le lapin chanceux. Et bon bah il faut qu'il crée un nouveau personnage, et il se dit, quitte à faire des dessins, il faut qu'il y ait un truc en plus. Et ce truc, ça va être le son, puisque justement, suite au succès du chanteur de jazz, beaucoup de salles se sont équipées en son, justement, pour proposer des films sonores. Et donc, Steamboat Willie, c'est le premier film avec du son synchronisé, ce qui va forcément faire un énorme effet, et ce qui va installer Mickey dès sa naissance au panthéon du dessin animé, quoi. Alors vous avez peut-être, si vous avez une image de Steamboat Willie, c'est peut-être, alors c'est en noir et blanc, c'est ouais. L'image de Mickey qui est à la barre d'un bateau.
Ouais ouais. Et ouais. Mais d'ailleurs l'image de Mickey a beaucoup évolué. À la base, il est beaucoup moins le visage rond avec les
gueules. Oui, il a une tête plus allongée. Voilà. Il n'a
avec
pas ses dents, par exemple.
Beaucoup plus long.
C'est aussi la première apparition de Minnie. On voit sa culotte.
Oh, la culotte
de Minnie dans Steamboat
Willie. Ouais, je crois qu'elle allait avec des cœurs dessus, blanc à cœur ou une bêtise des
c'était
gens.
C'était aussi le premier manga, quoi.
Et le film est une parodie en lui-même d'un autre film qui est le film Cadet d'eau douce avec Buster Keaton dont le titre anglais est Steamboat Bill Jr. Mm-hmm. Hein, qui est un film qui date de mai 1928. Donc on trouve Mickey, Minnie ainsi que Patty Buller. C'est pas sa première apparition, mais il fait déjà le méchant. Hein. Et donc une bonne partie de ces 7 minutes, hein, mais non, c'est beaucoup d'extraits musicaux. Enfin, l'histoire de chèvres et de vaches qui font de la musique et d'un perroquet. Hein. Alors ça a été...
Ça a l'air passionnant. Oui.
Oh, le scénar est pas forcément extraordinaire, non, c'est plus pour le côté historique. Hein.
Ouais, non, mais le pire, ce qui se rend pas compte, c'est qu'on voit des extraits de ce dessin animé dans tellement de pubs et dans tellement d'endroits, mais chaque fois des extraits différents, où on voit justement qu'il y a Mickey qui s'agite en train de danser en remuant un peu les fesses. Ça aussi, c'est de là.
En 94, il a été élu 13e plus grand court-métrage d'animation de tous les temps par des professionnels. Seulement 13e.
C'est qui le premier?
Ah, je n'ai pas le premier.
Ah, Shinji, t'as pas géré, là.
pas approfondi le sujet. Hein.
Mais c'est, par son côté innovant, c'est une marque de fabrique qui a continué à perdurer chez Disney. Puisqu'on note que c'est aussi les premiers à avoir mis de la couleur en 1932, à avoir fait des longs métrages d'animation en 37, à avoir fait des films avec une utilisation massive de l'informatique en 82, et aussi, ils ont fait le premier long métrage entièrement en images de synthèse, c'était Toy Story en 95. Donc déjà, c'était dans leur gène, comme on dit.
Et bientôt, ils feront le premier Star Wars qui sera bon, mais peut-être pas bon, mais voilà, on verra.
Et tout ça après avoir failli mourir dans les années, dans la fin, il y a presque 10 ans. Ils ont presque failli partir en faillite, quoi. Avant d'être rachetés par Pixar, ou je sais plus comment ça s'est passé.
Oui, mais depuis, ils ont
racheté
la
Pixar.
Voilà, c'est ça qui les a sauvés, parce que juste avant ça, ils étaient en train de faire faillite, quoi.
Alors, le film est revenu au centre de l'attention du public en 98, lors de la promulgation de la loi américaine d'extension du terme des droits d'auteur. Puisque normalement, le film aurait dû tomber dans le domaine public en 2003. Hein, en raison de l'arrivée à échéance des 75 ans de protection après la création d'une œuvre en nom collectif, puisque c'est créé par la société et pas par une personne seule. Toutefois, la loi repoussa le terme de l'échéance de 24 ans, sachant qu'il avait déjà repoussé de 25 ans en 76. Donc maintenant, c'est 99 ans. Et donc, théoriquement, s'il n'y a pas de loi depuis, parce que c'est une loi, mais non, il y a eu un énorme lobby Disney derrière cette loi.
Ouais.
Donc normalement, Steamboat Willie devrait être libre de droit en 2027. Sachant que si les gens pourront utiliser Steamboat Willie en domaine public en 2027, ça ne veut pas forcément dire qu'ils pourront se servir de Mickey Mouse. Parce que Mickey Mouse, c'est une marque déposée.
Ouais, c'est toujours...
Donc ça veut dire qu'en 2027, il risque d'y avoir des imbroglios judiciaires monstrueux sur la propriété intellectuelle de Mickey Mouse. Et vu la taille de la société Disney, ça, voilà, ça sera pas des petits problèmes. Donc, bien évidemment, c'est un dessin animé dont il est fait référence dans beaucoup d'œuvres, même de Disney, hein, forcément. On le trouve même représenté dans des jeux vidéo, récemment dans Epic Mickey, dans un jeu un peu plus ancien qui s'appelait Mickey Mania. Le premier niveau, en fait, c'était Steamboat Willie, donc tout en noir et blanc. Et à noter qu'on peut le voir gratuitement sur YouTube, et légalement. Puisque Disney Animation a un compte YouTube où ils ont mis des anciens dessins animés et on trouve notamment Steamboat Willie. Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez aller sur YouTube. Je vous conseille aussi, parce que évidemment, ça a aussi été beaucoup parodié, la parodie des Simpsons, qui s'appelle Steamboat Itchy et Scratchy, qui dans l'univers des Simpsons est censé être le premier dessin animé d'Itchy et Scratchy. Mais c'est légèrement plus violent que dans le Disney. Donc voilà, c'était tout pour Steamboat Willie. Alors en F1, ce jour-là, bon bah, faut savoir que le premier Grand Prix qui a eu lieu un 18 novembre, c'est le Grand Prix qui a eu il y a deux jours. Et j'ai repris. Vous pouvez remercier Dino, hein, qui m'a envoyé un message dire tiens, Charles. J'ai regardé, puisque en effet, ce dimanche, et c'est vrai que quand on y pense, ça paraît complètement dingue. C'est la première fois que sur le podium, on a à la fois Alonso, Hamilton et Vettel. En 100 Grand Prix, puisque Vettel fêtait son 100e Grand Prix en plus au Grand Prix des États-Unis, ça paraît complètement dingue. C'est la première fois qu'ils sont tous les trois sur le podium.
Eh bien.
À titre de comparaison, j'ai regardé les podiums où ils avaient été au moins deux. On trouve 38 fois. Hein, il y a eu 12 fois Alonso et Hamilton, 18 fois Vettel et Alonso et 8 fois Hamilton et Vettel.
C'est la preuve que Alonso et Vettel sont les meilleurs.
Et si on prend tous les podiums où au moins l'un des trois apparaît, donc sur 100, hein, on arrive à 89 Grands Prix.
Non, la vache.
La dernière fois qu'il n'y a pas eu sur le podium un de ces trois pilotes, c'est en Australie 2010.
Oh la vache.
Avec Button devant Kubica et Massa.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, quoi.
Et étonnamment, ce n'est que la première fois ce week-end, parce que il y en a deux, puis il y a toujours un Massa, un Weber, un Button qui est là-dedans, qui fait que ça nique le truc, quoi. Sinon, Dino, tu demandais aussi pour les podiums où il y avait trois champions du monde. Alors j'ai regardé, j'ai farfouillé, hein. J'ai compté, c'était la 26e fois que ça arrivait. Sachant que sur les 26 fois,
il y en a eu un peu que
cette année. Il y en a 16 depuis Canada 2010.
Ouais.
Non mais là, celui avec Schumacher, Raikkonen, c'était qui le troisième celui-là?
Schumacher, Raikkonen et Alonso à Valence.
Voilà, exactement.
Le podium spécial.
Il y a 10 ans, revenir en arrière il y a 10 ans, c'était pareil quoi.
Oui, c'est pareil, enfin, cette année il y a eu des Button, Vettel, Alonso.
Ouais, mais Vettel.
Je pense que cette année, si on regarde le nombre de podiums qu'il y a, il y a quasiment que des podiums de champions.
Ah là, ouais, sur cette année, compté...
c'était marrant, parce que ce podium il y a vraiment 10 ans en arrière.
7.
Oui, parce que même déjà Abu Dhabi, oui, c'est Raikkonen.
C'est déjà le cas. Singapour, Vettel, c'est déjà Alonso, le cas. J'ai trouvé la Belgique, l'Allemagne et l'Australie cette année. Et c'est particulièrement vrai, voilà, l'an dernier aussi c'était le cas. Je vous dis, voilà, il y en a eu 10 entre 53 et 91 et 16 entre 2010 et aujourd'hui. Faut quand même une énorme réunion de facteurs, parce que déjà, faut qu'il y ait trois champions du monde, ce qui n'est pas si évident que ça. Hein. C'est vrai que là, aujourd'hui, cette année, on en a 6, l'an prochain, on en aura 5.
C'est même assez rare.
Voilà, trois, c'est pas forcément toujours le cas. Il faut que les trois aient des voitures capables de gagner, parce que parfois, t'en as deux, puis t'en as un troisième qui est vieux en fin de carrière, qui peut plus gagner. Et puis, il faut que les trois, voilà, après, arrivent à aller sur le podium. Donc, c'est beaucoup plus rare qu'on pourrait le croire.
C'était un bel éphéméride, Shinji.
Dino, maintenant, c'est le moment de l'invité.
Oui, c'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors Jay, tu le sais, c'est l'heure de gloire de l'invité. Et avant de commencer l'heure de gloire de l'invité, peux-tu nous expliquer ton parcours, comment tu as découvert le SAV, depuis quand tu regardes la F1, est-ce que tu as des chouchous?
Alors pas de problème, je vais...
Vas-y, allonge-toi sur le canapé.
Exactement, c'est ce que...
Nous allons remonter à ton enfance.
Je me suis mis en position allongée pour me souvenir de tout cela. Et je vais commencer de manière chronologique, hein, si vous me permettez, et garder le meilleur pour la fin, donc le SAV. Hein. J'ai commencé
à... le 13 septembre.
J'ai commencé à regarder la F1 dans les années 80, dans la fin des années 80, à la télévision petit, personne de ma famille était vraiment intéressé, mais j'ai commencé à découvrir ça sur la télévision, ça commence à m'intéresser, et j'ai commencé à suivre la Formule 1 sur Internet il y a à peu près une dizaine d'années, un peu moins, et j'ai découvert...
Ah, la période F1 Live.
Voilà, exactement, exactement. Et j'ai découvert le SAV de la F1 et Fan F1 il y a à peu près un an. Donc je vous suis depuis le début de la saison, depuis la fin même de la saison de l'année passée, on va dire. Voilà. Et mes premiers souvenirs visuels de la F1, d'ailleurs j'ai jamais retrouvé exactement le Grand Prix, et si vous pouvez m'aider...
C'est l'Autriche 89.
C'est une arrivée. C'est une arrivée où une des ça devait être Bernoldi ou un truc comme ça, une des petites écuries, où les mecs se battaient à l'époque, c'est avec les 6 premiers qui marquaient des points, et ils se battaient genre pour la 8e et 9e place, donc aucun point, aucune différence, et coéquipier, si je dis pas de bêtises, et le mec a réussi à essayer de passer son coéquipier sur la ligne droite avant la ligne d'arrivée, à se prendre dans sa roue arrière, faire un 3-6, ratterrir, exploser ses suspensions, et franchir la ligne d'arrivée sur sa lancée, et finir donc le Grand Prix, pas vraiment sur les roues, vu qu'il n'en avait plus, en franchissant la ligne d'arrivée comme ça, il avait été classé comme ça, quoi. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs de la télévision, et depuis ce moment mémorable, entre guillemets, je me suis un peu passionné, et j'ai suivi de manière assez assidue toutes les périodes de la Formule 1, et je me souviens plus spécifiquement de l'époque depuis Häkkinen, on va dire. Et donc depuis, je suis assidûment le SAV et Fan F1 aussi.
Ah, c'est bien.
Donc je suis très content d'ailleurs avec ce site, contrairement à d'autres qui attendent plutôt pour vérifier certaines rumeurs et autres qui peuvent sortir de n'importe où, qui en parlent quand même par la suite en disant effectivement certains ont dit ou autre. Et malgré tout, le fait que ce soit pas entre guillemets un site qui se veut de professionnel dans le fait que vous n'êtes pas des journalistes professionnels avec des cartes et compagnie, peut-être comme d'autres.
Oui, on a une carte, mais de donneur d'organes. Ça ne sert pas vraiment dans notre jeu.
Non, mais donc du coup.
On a dit à Bernie, j'ai ma carte. On a dit, ouais, mais c'est une carte de donneur d'organes. Mais je fais Bernie, réfléchis, ça peut être utile.
Je suis en positif.
Tu seras bien content dans le paddock d'avoir un mec qui donne ses organes. Tu as bien besoin d'un cœur, d'un rein ou d'un poumon.
Un cœur, c'est bon, il y a un cœur en acier, il risque rien.
C'est comme ça qu'il tient.
Un rein ou un poumon.
Il est plus d'origine, hein, en fait. Tout est greffé d'autres trucs chez Bernie.
Et puis voilà, donc je suis très vraiment, j'apprécie aussi les commentaires qui se trouvent dans votre forum, parce que contrairement à d'autres sites comme Eurosport ou autres, où les mecs sont plus en train de se chercher à des noises les uns les autres et à s'insulter que...
Ouais, ça dépend des jours.
Oui, mais à la fin, on s'aime tous.
D'ailleurs, vu que tu parles de Fan F1, je vais adresser un gros bravo à toute l'équipe qui a assuré ce week-end, parce que c'était un week-end en organisation qui était un peu compliqué, qui a pu organiser des lives et compagnie. Donc vraiment un gros chapeau à toute l'équipe. On rappelle quand même que, justement, comme tu l'as dit, on est des amateurs qui font ça derrière, en parallèle de notre travail. Et le week-end, bah, ça se fait aux dépens parfois de la famille, des amis ou des sorties. Donc un gros salut à tous ceux qui ont participé à ce week-end, à Romain, à Marc, à Fab, à Benoît, à Clément, à Alex, et puis j'en oublie certains, voilà, qui ont vraiment beaucoup assuré ce week-end et qui font que Fan F1 vous a, je pense proposer une bonne couverture, et je les remercie personnellement de m'avoir donné un week-end off. Alors justement, on va en profiter pour passer à vraiment ton heure de gloire, et ça commence par le...
Alors j'ai pas le droit de dire contre maintenant, c'est ça?
Non. Donc c'est le pour
ou pas pour.
Le pour ou pas pour. Donc je rappelle le principe, même si normalement vous le connaissez, je vais te faire 10 propositions, à chaque fois tu me dis si t'es pour ou pas pour, et à la fin tu as le droit de revenir sur, de t'attarder un peu sur 3 propositions.
Ok.
On y va dès que tu es prêt.
On va dire que je suis prêt.
Alors pour ou pas pour, l'introduction d'une super licence à points pour les pilotes en 2013.
Pour.
Pour ou pas pour, la limitation du DRS à la seule zone DRS pendant tout le week-end à partir de 2013.
Pour.
Pour ou pas pour la vente de HRT?
On va dire pour.
Pour ou pas pour le Grand Prix de Russie à Sochi?
Pour.
Pour ou pas pour le HD DVD?
Pas pour.
Pour ou pas pour les essais en ligne droite durant la saison?
Pour.
Pour ou pas pour les t-shirts offerts en cadeau à Lotus par Kimi Raikkonen après le Grand Prix d'Abu Dhabi? Pour ou pas pour Martin Whitmarsh?
Pour.
Pour ou pas pour qu'il n'y ait plus de Grand Prix sur le Nürburgring?
Pour.
Et pour ou pas pour que les pilotes surveillent davantage leur vocabulaire sur le podium?
Ouais, pour.
Donc tu es pour tout?
Ah ouais, je suis même
sauf
pas rendu.
Pour le HD DVD. C'est bizarre, tu n'es pas pour le HD DVD.
Non, sinon tu pourrais ressortir le Laserdisc aussi avec.
Pour savoir que le HD DVD, on rappelle aux gens quand même, c'est à une époque, il y avait une guerre.
Ouais, une guerre des formes,
quoi. Qui n'a pas duré longtemps. Entre le Blu-ray et le HD DVD. Et donc, depuis le 2008, je crois, le HD DVD n'existe plus.
C'est mort.
Sur quelle chose tu voudrais revenir?
Alors, on va dire que je veux revenir sur, sur un de ceux que j'ai hésité en fait, parce qu'il y en a pas mal où j'ai hésité entre guillemets, et j'ai dit par exemple pour la vente de HRT. Pourquoi? Parce que en espérant qu'ils puissent finalement essayer de faire rentrer l'argent et d'arrêter d'être en train de bord de la faillite tout le temps, quoi. C'est tout, parce que sinon qu'ils partent en faillite et puis c'est tout aussi, quoi. J'ai dit pour aussi à quoi d'autre où j'ai hésité, Martin Whitmarsh, bah à la place de qui? De Ron Dennis ou à la place de quelqu'un d'autre? Ou c'est quoi?
Non, en général. Est-ce que le personnage, est-ce que lui?
Voilà, ça va.
De gestion et compagnie.
Non, moi je l'aime bien encore. Enfin, il se débrouille pas si
mal. Est-ce que tu l'as déjà lu en anglais? Pour être sûr que vous aimez Martin Whitmarsh, vous prenez les communiqués McLaren et vous amusez à traduire Martin Whitmarsh. Et là, si en sortant vous aimez Martin Whitmarsh, franchement,
c'est que vous avez
vous
un
méritez
temps.
Une médaille d'or.
Mais le problème, c'est il est chez McLaren et il doit remplacer Ron Dennis. Il va pas se mettre à jouer Red Bull, quoi. C'est pas vraiment la même philosophie d'entreprise, on va dire.
Et tu as un troisième thème?
Qu'est-ce qu'il y avait encore? Rappelle-moi les questions.
Alors, il y avait l'introduction de la super licence à points, il y avait le DRS dans la seule zone DRS en 2013, le Grand Prix de Russie à Sochi, les essais en ligne droite durant la saison, les t-shirts offerts en cadeau par Kimi Raikkonen, le Grand Prix du Nürburgring qui n'existera plus, enfin plus le Grand Prix au Nürburgring, et enfin le fait que les pilotes surveillent davantage leur vocabulaire sur le podium.
Bah, je veux revenir là-dessus aussi, par exemple. Oui, parce qu'il faut quand même c'est quand même envers les sponsors, envers ça, par rapport à l'heure à laquelle c'est diffusé, par rapport à ce que Bernie Ecclestone se casse la tête à faire dans les grands prix extra-européens pour que les horaires soient européens et tombent à 3-4 heures de l'après-midi ou 5 heures ou 7 heures ou 8 heures de l'après-midi, sachant qu'il va y avoir dans les podiums, il pourrait faire un petit peu on leur demande pas, voilà, il reste du temps
en même
d'accord,
temps l'un a juste dit un petit shit et l'autre un petit fuck.
Je sais qu'il y a bien pire, mais
oui, mais bon,
je considère
Visiblement, les téléspectateurs de la BBC ont pas vraiment apprécié.
Non, mais moi, pareil, j'apprécie
pas. Faudrait peut-être arrêter aussi.
Quand j'apprécie pas non plus le comportement de certains sportifs français ou autres qui sont pas respectueux de leur public, du reste, quoi, finalement. Parce que c'est vrai que ils doivent démontrer, spécialement par rapport à leur image, ils se doivent d'être, quand, à ces moments-là, d'être irréprochables envers la plus jeune génération.
En même temps, il faudrait peut-être aussi arrêter de les interviewer juste après le podium. C'est-à-dire qu'en gros, moins de 10 minutes après être sorti de la voiture.
Oui, mais c'est un argument qui a été avancé par le responsable communication de la FIA. C'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut, à un moment donné aussi, on peut pas non plus se plaindre que les mecs réagissent à chaud alors qu'on les interroge à chaud. maintenant, plein de sports, on interroge les mecs pendant la mi-temps, après la mi-temps, après la fin du match, immédiatement en sortant du terrain, et pourtant ils gardent leur vocabulaire. Donc voilà, c'est peut-être aussi un petit effort de la part des pilotes. On les a pas condamnés, on leur a juste rappeler à l'ordre en leur disant faites attention à votre vocabulaire, il n'y a pas eu de sanction. Mais après, il faut aussi savoir que c'est aussi quelque chose qui est utilisé de la part des équipes. Moi, je me rappelle, j'avais été choqué lors du Spygate de Singapour, où ils avaient révélé après les conversations audio, et le nombre de gros mots qui étaient déclarés pendant la course dans les conversations radio, c'est juste hallucinant.
Ils le font exprès, parce qu'ils le font
et
exprès.
En fait, voilà, il faut savoir
que c'est pour diffusé et pour pas que
voilà, chez certaines équipes, c'est fait exprès pour que ce soit pas diffusé, parce qu'ils savent très bien que la FOM ne diffusera pas une conversation s'il y a des gros mots dedans. Et donc voilà, quand il s'agit de passer une info un peu importante, ils mettent le gros mot, comme ça ça passe, ils savent que ça passe pas à la télé. De la même manière que la même manière que Ferrari fait ça en italien, ce que ils ont commencé à arrêter de faire, c'est-à-dire que ils parlent toujours en italien, mais aujourd'hui ça n'arrête plus la FOM.
Oui, Donc,
Exact.
Alors ensuite, quelle est l'actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Ouf. C'est tellement rien passé, entre guillemets, et ça fait déjà, depuis deux semaines, il se passe plus grand chose, entre guillemets, hein.
Bon, t'as le droit de remonter un peu plus loin, si tu veux, tu peux remonter à, jusqu'à il y a un mois. En fait, j'en ai rien à foutre de l'arrivée de Lewis Hamilton chez McLaren.
Non, 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 ça au contraire, entre guillemets, mais sinon, ouais, que le pilote chinois, peut-être qu'on ira pour HRT, on va dire. Ça fera tout ouais, le mal que je leur souhaite d'un côté pour qu'ils soient rachetés par les Chinois, quoi, mais.
Mais ils se murmurent que ça pourrait être racheté
justement,
par les Chinois.
C'est pour ça que j'ai ça.
Ouais,
il y a une rumeur qui a commencé un petit peu à sortir cette année, c'est qu'ils pourraient, voir les Chinois rentrer dans le capital. Ensuite, quelle actualité, en dehors des Grands Prix, aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Ah, alors ça, c'est pas très compliqué. Qu'un des trois ou quatre grands constructeurs auxquels je pourrais penser revienne en Formule 1. C'est-à-dire BM en tant que motoriste par exemple, hein, pour aller chez McLaren par exemple, BM, Honda, Porsche. Quand je dis Porsche, ça englobe tout le groupe Audi, hein. Donc
ouais. C'est pour ça que je dis ça englobe beaucoup de marques.
Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai dit 3 ou 4 constructeurs, parce que je pensais essentiellement
ça va de ça à
venir pour revenir, c'était ça, ça je ciblais Honda et BMW qui pourraient très bien se décider de revenir en tant qu'uniquement motoriste, spécialement Honda finalement. Pourquoi pas Honda revenir André en tant que motoriste. Et d'un côté, ça serait un bon truc commercial aussi, McLaren Honda.
McLaren Seat, ça aurait de la gueule.
J'en ai parlé il y a deux jours à quelqu'un qui connaissait pas spécialement la Formule 1, qui aime les sports en général, mais je lui dis si je te dis McLaren Honda, ça te dit quoi? Il m'a fait ouais, Senna, la période et voilà, tout de suite le mec.
Quand on dit McLaren Mercedes,
non, mais c'est comme Williams Renault.
McLaren Mercedes,
non, mais ça veut dire c'est comme Williams Renault. Finalement, c'est un peu comme Williams Renault, c'est quel que soit, bon, très bien pour Williams la saison qu'ils ont fait cette année, mais rien que ça, avant même le début de leur saison, rien que le fait que Williams Renault, et bon, ils le disaient eux-mêmes, on n'a pas les mêmes attentes peut-être que à la fin de la collaboration, quoi. Mais
ils ont même fait en sorte que la livrée soit, ça rappelle.
Voilà, non, mais même pour McLaren, après, ce serait un très bon plan, même s'il passerait un an de galère, de s'associer avec si Volkswagen venait en Formule 1, avec Porsche ou puisque Porsche aussi a un nom en Formule 1, McLaren.
Bah, ils ont roulé avec
McLaren. Voilà, exactement, oui, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Donc que ce soit aussi bien Porsche que Honda, pour McLaren, s'ils pouvaient éviter de payer un moteur Mercedes.
Pour le moment, ils ont dit qu'ils continueraient avec Mercedes.
Oui, mais ouais. Combien de temps?
Oui.
Mais bon. Ils ont pas signé après 2014.
Ils se murmurent que Mercedes n'aurait peut-être pas envie de continuer avec McLaren.
Voilà, déjà, ils ont signé pour 2014. Il me semble pas.
Ils ont un contrat jusqu'en 2015.
Je crois que c'est 2015, ouais.
Ouais. Mais à partir de l'année prochaine, ils payent le moteur.
Voilà, et de toute façon, les contrats en Formule 1, c'est très bien ce que ça vaut, hein. Si McLaren se trouve Porsche ou Honda comme partenaire motoriste, y a pas de souci.
Oh, ça va, McLaren a récupéré de la masse salariale pour l'an prochain.
Là, ils ont récupéré la masse salariale. Alors ensuite, au contraire, quelle serait l'actualité, toujours en dehors des Grands Prix, que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Que Schumacher ou Barrichello puissent revenir l'année prochaine, finalement.
Ah ouais, ça, personne n'aimerait relire.
Barrichello. Il était là ce week-end, hein.
Ouais, je sais.
Oui, chez Ferrari, en fait, ça fait rire.
Je pense que le week-end prochain aussi, il sera là, hein, la prochaine fois aussi, hein.
Moi, je serais Ferrari, je lui fermerai les portes, hein. Tout ce qu'il a balancé sur Ferrari, après être parti de chez Ferrari, le mec, jamais il rentre dans mon stand. Jamais.
Chez Williams.
Il va où il veut. Mais pas chez Ferrari.
Et c'est chez Williams.
Bon, qu'il aille pas chez Williams, c'est le signe que visiblement les relations.
Ouais,
sont pas
non, mais voilà quoi. J'allais dire Brown n'existe plus, donc qu'est-ce qu'il reste après quoi.
Et enfin, est-ce que tu as un drive-through of the weekend?
Donc spécialement ce week-end pour Luc Maldonado a moitié réussi à se tenir à l'écart des ennuis. On va dire que c'est Perez sur pic, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre et ça aurait été un autre pilote que Perez. Genre style Grosjean. Qu'est-ce qu'il aurait pris encore, quoi? Donc, ouais. Ça aurait pu, vu qu'il y a eu pas, il me semble pas qu'il y a eu grand chose d'autre ce week-end qu'il y a eu sur quoi on peut redire. Parce que finalement, comme j'ai dit, ce que fait Ferrari pour moi, au contraire, c'est très bien. Même si je suis pas fan de Ferrari. Donc voilà, mon drive-through, c'est Perez.
Ah, t'as des goûts de chiottes. Et toi, Chidi, est-ce que tu as un drive-through?
Peut-être deux petits drive-through. L'un sur l'affaire des casques.
Ah bah c'était mon drive-thru ça.
Bah si tu veux je te le laisse dans ce cas-là.
Ah merci.
Petit drive-thru, ce pauvre Malbranck sur Twitter il a pas dit directement mais il y a eu des messages de Malbranck en disant oui si vous vous voulez envoyer des messages sur la programmation, envoyez vos messages sur le compte Twitter TF1. Ce qui laisse supposer qu'il a dû recevoir quand même un paquet de messages au sujet de la programmation sur Eurosport. Voilà, c'est, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est toujours un peu con de faire ça envers Malbranche. On peut critiquer beaucoup de choses envers Christophe Malbranche, mais lui, il n'est que le commentateur. C'est pas lui qui programme la F1 sur Eurosport. Il est peut-être même l'un des premiers désolé au fait que ça soit sur Eurosport. Bien évidemment, il le dira jamais parce qu'il est employé du groupe TF1. Voilà, c'était juste ça.
Surtout que Eurosport, ils ont mis la dose ce week-end.
Bah écoute, vu que c'est peut-être...
J'avoue qu'à un moment donné, moi, ça a été l'overdose.
Il y a eu vendredi F1, ouais. Samedi F1, dimanche F1. Avant et après les séances.
Ah. Non mais moi, les émissions, ça allait. Mais c'est juste que là...
Le fait qu'il le fasse, c'était bien.
Trois jours de la Gorse, je ne pouvais plus à la...
C'est bien de faire ça, mais la question, tu dis, mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement au Grand Prix des États-Unis? Ça se trouve, la semaine prochaine, c'est leur dernier Grand Prix, on sait même pas si l'an prochain.
Oui, non, mais c'est surtout ça, ils ont mis en place ce dispositif-là parce que c'est spécial, c'est le retour des États-Unis. Ah ça bon. Veut dire que les autres Grands Prix ne comptent pas.
Mmh. Bon, et puis, je sais pas si vous avez remarqué que, du coup, ils sont encore plus lâchés dans la présentation, ils étaient beaucoup plus familiers entre eux et dans toutes leurs actions et leurs réactions que d'habitude avec les premiers de la saison. Moi, je les regarde pas beaucoup parce que justement, je suis pas du tout très fan de la bande. La plupart du temps, quand je les regarde, je suis obligé de couper le son parce que ils disaient telle bêtise que ça m'énerve. Mais le peu que j'ai vu, voilà.
Ah, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de, enfin, mystère. Je sais pas, je suis pas allé sur son blog. Il y a plus Jean-Louis Moncey. Enfin, c'est-à-dire qu'il a suivi jusqu'au Japon.
Ah, mais
on l'a plus vu. À Abu Dhabi, il était là, je crois.
Il a été malade.
À Abu Dhabi. Après, mais là, aux États-Unis, pareil, il était pas.
Bah, le problème.
On sait qu'il a été malade et je me demande s'il y a pas un effet peut-être. Il a pas beaucoup voyagé, compagnie.
Voilà.
Ou...
Je dis ça. Je sais pas pourquoi. Il y a pas d'explication. Bon. Si c'est cause là, bon, bah, là, on les comprend. Mais voilà, c'était juste, je me posais la question.
Moi, je pense sincèrement, c'est qu'il a été malade justement au Japon. Bon, on n'a pas eu trop d'informations sur ce qu'il avait.
Après, bon, c'est sa vie privée. Voilà.
Et je pense que là, pour les Grands Prix, comme c'est la fin de saison, il s'est un peu ménagé. Et là, je pense qu'il n'était pas aux États-Unis, c'est parce qu'il voulait être au Brésil. Enfin, on verra s'il est au Brésil ce week-end, mais je pense que c'est parce qu'il voulait être au Brésil, qu'il savait que le Grand Prix serait pas diffusé sur TF1 et que ça, enfin, aller aux États-Unis puis au Brésil, ça impliquait quand même pas mal de voyages et compagnie sans rentrer à la maison. Donc, je pense qu'il a peut-être préféré rester chez lui, venir juste pour le Brésil et voilà.
Surtout que ça risque d'être le dernier et un des derniers de leur émission.
J'ai envie de dire, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des informations peut-être précises, qu'ils n'hésitent pas à les donner, voilà.
Ouais, balancez. Vas-y, le docteur Chicaldo. Docteur Chicaldo, qui est le médecin de Jean-Luc Moncey. On veut son dossier médical.
Mais ça se trouve, c'est autre chose. Enfin, voilà, on sait pas. C'est pour ça, on sait pas. C'est des suppositions. Voilà. Donc oui, tu avais ton drive-thru sur les casques.
Ouais, alors moi, c'est une thématique casque. C'est pareil, c'est deux mini drive-thru. Ça serait d'abord un drive-thru contre Sébastien Vettel.
On a découvert un point de règlement, quand même.
Ouais. Mais de la même manière qu'on a donné le prix Nobel à Barack Obama pour dans un espoir de paix, je vais donner un drive-thru à Sébastien Vettel avec un espoir derrière. S'il te plaît, Sébastien, tu as disputé ce week-end ton 100e Grand Prix. Tu as eu, je crois, 56 casques différents. J'aimerais t'appeler à la raison. Tu avais sans doute ce week-end le plus beau casque que j'ai jamais vu de ma vie. J'aimerais que tu le gardes. Arrête cette connerie qui est de dès que je gagne, je change de casque et compagnie. Non, garde ce casque-là. Je suis tombé amoureux de ce casque. Superbe, ce côté trompe-l'œil en bois et tout. Je trouvais ça juste génial. Alors c'est vrai qu'il y a eu en plus derrière le règlement qui stipule que Bernie Ecclestone, on peut pas avoir de slogan parce qu'il avait écrit dessus Wings.
Le Give You Wings,
qui est le slogan de Red Bull. Et il y a un point
Par contre, t'as le droit d'avoir ton sponsor sur un bandeau tout autour du casque que tu vois parfaitement sur la même caméra.
Oui, mais pas pareil.
Non, c'est pas la même chose.
Il est stipulé que tu peux pas mettre de slogan sur le dessus du casque visible depuis la caméra embarquée. Voilà. Donc du coup, ils ont dû mettre du scotch ils ont réussi à trouver du scotch qui était couleur bois, mais franchement, le casque de Sébastien, moi j'étais amoureux de son casque. Je trouve son casque absolument splendide et Sébastien, s'il te plaît, garde-le. Et un deuxième drive-thru, ça concerne cette fois-ci aussi le casque de Lewis Hamilton. Il y a eu une autre affaire du casque de Lewis Hamilton. Et là, c'est contre la FIA, parce que je suppose que c'est la FIA qui a demandé, la FIA ou la FOM qui a demandé à ce qu'on modifie son casque. À savoir que donc il avait un casque spécial aux couleurs de l'Amérique et compagnie sur le dessus. Et derrière le casque, il y avait écrit H-A-M avec trois points.
Voilà, H.A.M.
Voilà. J'aimerais juste savoir, c'est avant ce week-end, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire?
Non, mais c'est ça le truc. Non, mais ça n'apparaissait pas. C'était vrai juste sur ce casque-là.
Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est une partie du casque.
Je veux dire, avant qu'un connard de journaliste mette un truc, je veux dire.
C'est même pas un connard de journaliste. Là, j'ai envie de dire, c'est la faute de la FOM ou de la FIA qui a transformé, parce que il fallait un peu bomber le torse après l'histoire du podium d'Abu Dhabi, qui a transformé, qui a fait savoir à la plupart des gens ce que voulait dire H.A.M. Donc H.A.M. comme ça avec des points au milieu, c'est Hard as a Motherfucker. Voilà, c'est aussi le titre d'une chanson de Kanye West, je crois, qui est sortie il y a quelques mois ou quelques années. Voilà, bon bah c'est, j'arrive même pas à trouver de traduction française. C'est dur comme un mec qui fait l'amour à ta maman.
Oui, voilà, c'est une traduction littérale.
Voilà. Mais sincèrement, faudrait peut-être faire un sondage ou je sais pas quoi, mais sauf si tu es du milieu du R&B ou que tu parles la langue et compagnie et que tu connais l'expression, qui est quand même une expression urbaine, qui est quand même pas non plus très très courante, le H-A-M, surtout que c'est les trois premières lettres de Lewis Hamilton.
Tu demandes à la plupart des gens, Hamilton.
Je pense sincèrement qu'il y a que 20% des gens qui voient dans H.A.M. Hard as a motherfucker.
Derrière,
en interdisant, tu incites les journalistes à expliquer pourquoi c'est interdit. Donc, du coup, ce qui ne devait pas être su devient su de tout le monde. Et donc, aujourd'hui, maintenant, 100% des gens qui suivent la Formule 1 savent que H.A.M., ça veut dire Hard as a motherfucker.
Bah, dans ce cas-là, il va aussi falloir changer les synthés, parce que faut rappeler que son code, hein, entre guillemets,
c'est H.A.M.
Il avait une excuse toute trouvée aussi, parce qu'il pouvait très bien dire aussi que c'était Hard as Mercedes.
Oui,
mais c'est ce que Mercedes a sorti en plus.
Exactement.
Comme excuse.
Faut à un moment donné, faut arrêter quoi. Bon, même si faut être honnête, derrière, on sait très bien que c'est Hard as a Motherfucker et que bon voilà, on se doute aussi des intentions des Lewis derrière. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens avec qui ça avait échappé et que là du coup, en voulant interdire, en voulant réglementer, on l'a fait savoir à tout le monde ce que ça voulait dire.
Combien de fois c'est la FIA qui a le droit ou d'infliger des amendes aux écuries pour différentes infractions, aussi bien des excès de vitesse dans les stands que des absences à des meetings ou des retards ou des machins ou choses ou chouettes. Pourquoi ils mettraient pas aussi des sanctions financières?
Ça ils peuvent, mais moi c'est pas moi limite.
Ça évitera des débats entre guillemets.
Mais moi personnellement c'est pas.
Je trouve pas très malin comment ils l'ont fait, mais ça pourrait éviter des débats et des problèmes à l'avenir aussi. Mais c'est cette saison, ils sont spécialement sur le qui-vive et ils essayent d'imposer une certaine marque pour le moment pour faire digérer d'autres pilules lors de négociations avec les équipes, aussi bien pour en se montant très dur. C'est je suis dur et peur de moi quoi, entre guillemets, dans le sens quand on voit ce qu'ils ont infligé comme sanction à Grosjean parfois et d'autres sanctions, c'est aussi pour pouvoir faire peut-être négocier plus facilement une position après lors des négociations, aussi bien pour les points, parce que dès le départ ils avaient annoncé une augmentation des points très forte, après ils l'ont baissé pour faire passer plus facilement la pilule et tout genre de choses quoi. Les années précédentes a été peut-être beaucoup moins active aussi parce que elle avait moins à y gagner ou à y perdre. Enfin bon, c'est un point de vue personnel.
Non mais ça se défend.
Mais si on va passer à la course.
Ouais.
Et au qualif. Et j'ai envie de dire, cette semaine ça change.
Ah.
C'est pas Jeve, c'est Daniel.
C'est DR.
Daniel Ricciardo donc qui a fait 18e cette semaine.
Et ouais. Mais autre fait plus encore marquant entre guillemets, c'est les performances en qualification
des Marussiens.
Exactement, des Marussiens qui ont réussi les deux à se qualifier devant les quarter arms. Je trouve que les deux se qualifient devant les deux quarter arms. Je trouve que c'est encore plus marquant comme fait que la 19e position, 18e position.
Ça fait quand même quelques week-ends où la Marussia
comme les, enfin, voilà. C'est très rare quand ils les ont devancés en qualification tous les deux et à la régulière, surtout sur un circuit comme à Austin où il y a le DRS qui est utile. Bon là, les deux.
À mon avis, c'est...
Mais il y a aussi le Kers où là seul
Kers.
Et dans la longue ligne droite et compagnie, ça peut te faire gagner quelques dixièmes.
À mon avis, Marussia exploite mieux probablement les moyens qu'Arparam, qu'ils ont à disposition que Arparam. Et leur matériel.
Je pense que cette année, en termes de matériel, ils sont meilleurs et ils méritent leur 10e place en termes de matériel. Notamment aussi, il faut le souligner, parce qu'ils ont des accords avec McLaren, notamment pour utiliser le simulateur McLaren et compagnie, qui les font vraiment progresser. Là où Caterham, certes ils ont des trucs, mais Caterham, on a encore quand même l'impression que ils ont pas les moyens vraiment de véritablement développer compagnie. Je pense que peut-être dans la gestion de l'équipe, Marussia a été plus intelligent en y allant pas à pas, en faisant des partenariats techniques, mais aussi en négociant pour utiliser les simulateurs de McLaren et compagnie, des vrais partenariats serrés. Là où je me demande si Caterham vraiment ils utilisent
ils essaient de construire de zéro.
Les installations, les simulateurs d'autres équipes.
Ils ont essayé Caterham part trop de zéro entre guillemets, alors que Marussia a pour le moment su plus intelligemment se dire que le matériel qu'ils ont à disposition, ils font ce qu'ils peuvent avec, mais du coup qu'ils le fassent le mieux possible, quoi, avant d'essayer de faire n'importe quoi eux-mêmes par la suite. Et en fait, c'est en comprenant bien le matériel qu'ils ont cette année et tout, qu'ils vont pouvoir produire des choses à leur portée, mais plus développées, plus finies, qu'ils maîtriseront encore mieux l'année prochaine, quoi. Parce que on voit Caterham, on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment non plus progressé tant que ça par rapport à leurs moyens, par rapport aux autres équipes derrière,
Surtout quand tu vois les.
C'est décevant cette année ce qu'ils ont fait.
Le moteur qu'ils ont, voilà, quand tu vois
le moteur
qu'a donné.
Et ils sont encore très loin de Toro Rosso, quoi.
Quand tu vois le boost qu'a donné le moteur Renault, par exemple, à Williams cette année,
ils sont plus loin
de les passé, mecs quoi. Et compagnie. Tu vois Caterham, ça fait 2 ans qu'ils ont le moteur Renault.
Ben voilà. C'est ça.
Tu te demandes un petit peu quand même à quoi il leur sert, parce que finalement, ils ont un peu progressé l'an dernier. Mais cette année, en plus, ils ont le Kers.
Alors que Marussia, ils ont le moteur Cosworth que William galérait l'année passée avec, quoi.
Voilà.
Qui est pas, Cosworth, il n'est pas connu non plus pour être spécialement ni efficace ni puissant. Là, en plus, ils sont en fin de quota, ou même, je crois que même ils avaient déjà dépassé les deux les quotas. Donc, c'est pas des moteurs tout neufs. Donc, c'est les moteurs Cosworth qui, comme Barrichello l'a bien fait savoir à tout le monde à l'époque, au bout d'un Grand Prix et demi, il avait perdu genre 50, je sais pas combien. Spécialement pour les Marussia, parce que j'ai du mal à croire que Cosworth a développé beaucoup le moteur pour Marussia et HRT, depuis qu'ils ont perdu Williams et Caterham, et qu'ils ont produit pas leur premier moteur pour l'année prochaine. Qui sont en train d'être vendus à je sais plus qui à côté. Là, ils sont en vente, je dis pas de bêtises, Cosworth, non ?
Il me semble que quelqu'un
est en train de le vouloir être en train de
passer
par un constructeur américain, je crois, ou quelque chose comme ça, quoi.
C'est assez récent, ouais.
Je crois que c'est même un constructeur américain qui s'est intéressé par le rachat. Donc voilà, quoi. Enfin bon, peut-être même Greg Pollock indirectement.
À noter, HRT qui était dans les 107%, c'était pas gagné.
Ouais.
Oui, eux-mêmes l'ont dit après.
Non, mais c'est vrai. Ils avaient très peur de ne pas se qualifier pour ce Grand Prix.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu des commentaires assez sévères sur Neerane Kartikeyan ce week-end. Faut quand même rappeler que Neerane Kartikeyan, d'abord, il a pas roulé vendredi après-midi, lors des essais libres 1, parce que c'était Makinwa qui était au volant. Exact. Ensuite, lors des essais libres 2, HRT a décidé de rouler à minima, donc parce que visiblement économie ou je sais pas quoi.
Ils ont
très très peu roulé, je crois qu'ils ont attendu une demi-heure, trois quarts d'heure avant de sortir en piste. Donc, ce qui fait quand même que Kartikeyan, il avait facilement la moitié, des essais en moins par rapport à tout le monde sur le plateau.
McWilliams il ne serait pas là ce week-end avec ses sponsors, il serait à peine pu venir sur le circuit pour rouler, ils le font parce qu'ils sont obligés contractuellement, mais ils ont licencié 40% du personnel, ils ont pris un coup au moral en plus du reste, ça les a pas aidés non plus, quoi. Hein.
Donc quand même réussir à
qualifier,
c'est un bel exploit de la part de HRT et de, je crois qu'ils ont fini en course en plus, Kartikeyan et de la Rosa, donc
Kartikeyan
ça ne mérite pas qu'on soit aussi sévère, notamment envers Kartikeyan, qui sincèrement ce week-end pouvait pas forcément faire beaucoup plus parce qu'on lui a pas donné les moyens de faire beaucoup plus.
Non, c'est un pilote qui mérite entre guillemets quand même sa place en Formule 1, en partie grâce à son argent, mais comme beaucoup d'autres pilotes sur la grille, comme des trois quarts des pilotes sur la grille actuellement. Mais il est loin d'être un Paul Belmondo ou autre, quoi, parce que Paul Belmondo, faut rappeler qu'il a roulé en Formule 1, mais comment et grâce à quoi ?
Il est loin d'être un Lagorce.
voilà.
Qui rappelle que Lagorce n'a que 2 grands prix de plus que
déjà la Costa. Ah ça, c'était magnifique.
La manière dont il a clashé Lagorce, voilà. Je trouvais ça magnifique.
Allez, en Q2, 17e, Nico Rosberg. Alors là,
c'est Mercedes. C'est... Quoi.
On va pas forcément beaucoup parler de Mercedes ce week-end.
Et ils ont été gentils.
Avec
Schumacher, parce que sinon, ça aurait très bien pu être Rosberg devant.
Ils roulaient avec 2 configurations différentes d'échappement. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a bien marché sur Schumacher qui avait les effets Coanda et pas et pas Rosberg. Et donc Rosberg s'est un peu s'est gaufré en qualif. Mais en course, par contre, ça a plutôt été à l'avantage de Rosberg que de Schumacher.
Schumacher a bouffé deux fois plus vite, quoi.
Oh là là, la 16e Kobayashi, 15e Perez, donc voilà, les Sauber 15 et 16. Voilà. Vergne, donc 14e. Pour le Toro Rosso, c'est quand même pas mal du tout.
Ouais. Ouais, c'est une belle qualité.
Surtout pour Vergne, qui est pas spécialement en forme dans le domaine, en général. Autant Grosjean est assez fort en qualif par rapport à la course, autant Vergne, c'est l'inverse. Entre guillemets, hein, sans vouloir, trop non plus.
Ah, mais Grosjean, la course, on peut pas savoir.
C'est-à-dire que, c'est difficile, une fois sur deux, il a fini.
Voilà.
Di Resta, 13e. Button, 12e.
Button, le pauvre.
C'était un problème d'accélérateur, je crois.
Électronique, ouais. Il avait plus de puissance, il appuyait, il n'y avait rien qui venait, quoi.
Senna, 11e place.
Belle qualif.
Ouais, Senna. Mais Senna, il est souvent décrié, mais pour un deuxième pilote, franchement.
Ça fera un bon pilote à chercher.
Il l'a été,
rappelez-vous. Oui, bah, l'année prochaine. À noter que d'ailleurs que ce week-end, Sébastien Buemi a déclaré à la télévision suisse, justement, que, d'après ses informations, Bottas remplacerait Senna l'année prochaine.
Ouais, c'est possible, ouais. Mais bon, Senna, honnêtement, il fait beaucoup plus de boulot que d'autres deuxièmes pilotes de d'autres écuries, hein. Quand on regarde sa régularité au niveau classement dans les courses, au niveau points qu'il ramène à l'équipe, et au bout d'une fois qu'il finit les courses.
Faut aussi comparer par rapport au potentiel que montre le deuxième pilote.
Bah oui.
Là où Senna arrive à prendre un ou deux points, et moi je suis le premier à saluer sa régularité, là où Senna arrive à prendre un ou deux points, on n'a jamais l'impression non plus qu'il peut aller chercher.
Mais il fait
plus
des courses assez solides. Franchement.
On est d'accord. Maldonado, il se bat souvent pour la 5e, la 6e place assez régulièrement. Bon, il fait des conneries, mais il montre quand même un potentiel avec la voiture qui est bien meilleur que ce que montre Senna. Après, c'est sûr que Senna est en course, en tout cas, concrétise beaucoup plus, mais en termes de potentiel, moi, je suis quand même convaincu qu'aujourd'hui, il y a sans doute mieux sur le marché que Senna.
Il est jamais en train de rouler lui le vendredi matin aussi, hein. Ça l'aide pas pour se qualifier, pour faire ses courses et pour tout, quoi. Il se débrouille pas. Je suis pas un fan, mais il faut qu'ils arrêtent de dire que voilà, quoi. Ok, il est là en partie par son prénom et son nom, par son nom, mais il mérite plus sa place que d'autres, quoi, aussi. Maintenant, je préférais celui qui risque de me faire de la peine l'année prochaine de ne pas avoir de volant plus que Senna, c'est probablement Kobayashi, quoi. Kobayashi que je vais beaucoup regretter, entre guillemets.
Et dans le top 10, une vie avec qui?
Ah, et bien justement, le 10e, c'était Maldonado.
Le 9e, on passe, on passe le 8e.
Non, parlons de la 9e place de Fernando Alonso.
Non.
Donc là, parlons de ses qualifs, hein, d'accord, hein, de sa qualif. C'est quand même.
Qu'est-ce que tu veux dire sur sa qualif?
Bah, c'est pas terrible quand même. Enfin, c'est moyen.
Alors, on a appris hier ou aujourd'hui que en fait, donc ils ont essayé des nouvelles pièces à Idiada la semaine dernière avec Jules Bianchi, notamment un nouveau diffuseur. Mmh. Ils ont monté le nouveau diffuseur sur la Ferrari. Alonso a décidé de le garder, alors que apparemment il n'y aurait pas une corrélation entre le résultat de Idiada et la soufflerie, ça correspondait pas. Mais ils ont quand même décidé de l'essayer. Alonso l'a gardé. Massa, lui, a préféré revenir à l'ancien diffuseur qui apparemment marchait mieux. Ça, c'est Massa lui-même qui le dit. Il dit lui-même qu'il a préféré garder l'ancien. Donc, c'est une boulette de la part d'Alonso d'avoir gardé le nouveau diffuseur qui marchait moins bien que l'ancien. Il a d'ailleurs dit que parfois, vaut mieux garder l'ancien que le nouveau.
Ouais,
mais voilà, ça explique aussi peut-être la différence, le fait que Massa était globalement plus performant ce week-end qu'Alonso. C'est peut-être aussi un facteur explicatif.
Ouais, mais bon.
Mais c'est en partie de la faute d'Alonso, quoi. Il a gardé une pièce qui marchait pas.
Il est pas très loin, de toute façon, de la place que fait la Ferrari. Elle vaut, hein. Je veux dire, c'est pas qu'il a fait 15e, et c'est pas qu'il aurait, avec l'autre pièce, il aurait pas fait la pole position non plus.
À la 8e place, il y avait Nico Hülkenberg.
Un plus ou moins impressionnant, entre guillemets.
Je suis pas fan de ce mec, mais sincèrement, je suis pas fan.
Il fait le boulot.
Mais là, depuis la Belgique, il me scotche, ce garçon, c'est incroyable.
Bah, c'est un choix intéressant pour Sauber, hein. Ça, c'est clair. Hein.
Ah oui, non, clairement. L'année prochaine, il vise les podiums. Lui, il veut remplacer Perez.
Ah, non, mais. Moi, clairement, j'étais plus fan de Di Resta que de Hülkenberg à la base.
Ah, pareil.
Et franchement, Di Resta, soit je suis déçu par Di Resta, soit je suis impressionné par Hülkenberg. Et je crois que je suis presque encore plus impressionné que par Hülkenberg que je suis déçu par Di Resta, quoi. Parce que Di Resta, il fait plus ou moins le job. Mais Hülkenberg, franchement, au début, j'étais mitigé pour Sauber, mais quand j'y repense, c'est pas un mot. J'étais mitigé parce que je voulais que Kobayashi reste. Donc du coup, il restait plus qu'un baquet. Mais sinon, c'est pas un bon point pour
D'ailleurs, Kobayashi Bianchi qui a dit qu'il n'avait plus besoin de sponsor.
Ah. Pour faire quoi?
Alors, c'est soit,
c'est soit qu'il a signé un truc, soit que...
Soit c'est une bonne nouvelle.
Il a signé chez HRT. Merde.
Ah non, si c'était chez HRT, il aurait besoin de sponsor.
Ouais, il a signé chez Marussia, il a...
Donc, 7e Philippe et Massa.
Ouais.
Non, c'est bien, il a dévancé Fernando, il
oui,
a fait, il a, voilà. Il a fait des positions que pouvait faire plus ou moins sa Ferrari, hein. Ça aurait peut-être Fernando dans sa voiture, peut-être qu'il aurait pu viser 6e, voilà, mais voilà, quoi. Il a fait quand même du, franchement, moi j'étais pour qu'il parte. Pas qu'il reste. Maintenant, depuis 2-3 grands prix, il fait les 3/4 du job. Il fait pas le job, 100%, mais il fait les 3/4 du job. Il s'est sacrifié après par la suite, pour que Fernando et lui partent du bon côté et que Fernando parte encore une place devant.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment un sacrifice.
Ouais, quand même. Même s'il a gagné,
Oui, non, mais, parce que, moi j'ai un, alors, oui, c'est, enfin, je suis pas sûr que ce soit un sacrifice. Oui, il s'est sacrifié, soyons honnêtes. D'ailleurs, Ferrari ne le cache pas,
ils sont honnêtes. Il aurait pas fait mieux parce que...
Ils le disent et compagnie. Mais en même temps, au départ, il partait 7e. Bon, en partant 7e, non, il partait 6e après la pénalité de Grosjean. Il partait 6e. En partant du côté sale de la piste, on pouvait s'attendre à ce qu'il perde deux places. Ouais. Voilà, ça a été un peu la moyenne pour certains pilotes sur la grille. Ils pouvaient s'attendre à ce qu'ils perdent deux places. Donc ils se sont trouvés 8e. En partant 11e du côté propre de la piste, on voit Alonso, il a gagné 3 places au départ.
Ouais,
donc s'il gagne 3 places, il part 11e, il arrive 8e. Donc grosso modo, il se retrouve plus ou moins à la même place.
Je suis d'accord aussi, sachant qu'en plus il va.
Je suis pas sûr que concrètement ce soit vraiment un sacrifice.
Sachant aussi qu'il va devoir, quoi qu'il arrive, laisser passer Fernando.
C'est surtout que la décision prise par Ferrari, moi je suis désolé, elle est géniale. De la même manière.
C'est une exploitation merveilleuse du règlement.
Exactement.
De la même manière que j'ai trouvé il y a 15 jours l'exploitation faite par Red Bull absolument géniale du règlement.
Ils sont d'accord. Dans la même veine.
Je constate en tout cas que ceux qui critiquent, j'ai encore tapé sur les mêmes, ceux qui critiquent, c'est encore une fois Martin Whitmarsh et McLaren qui critiquent, mais ils critiquent aussi à un moment donné, ça fait peut-être bien aussi que eux aussi arrêtent de jouer les jeunes filles effarouchées à chaque fois et que eux aussi aient un petit peu cet instinct-là parfois d'utiliser aussi le règlement à leur bienfait. On l'a vu dans l'histoire à Abu Dhabi, la comparaison avec Barcelone, où Barcelone il pose Hamilton sur la fin de grille, ils font rien, là où chez Red Bull il y a quand même l'intelligence de se dire on va changer les réglages et compagnie, on met de côté.
Ça serait quand même peut-être pas une mauvaise idée qu'il y ait des clarifications par rapport à ça.
Oui, alors moi je veux bien qu'il y ait une clarification, mais justement je l'ai dit en commentaire sur Fan F1, je veux bien qu'il y ait une clarification, mais faut pas qu'on fasse une clarification par rapport à Ferrari, à ce qui s'est passé ce week-end.
Mais
qu'on fasse une clarification par rapport au fait que quoi qu'il arrive, ça n'est pas normal. Et j'ai cité le cas, on dit c'est pas normal parce que les autres se retrouvent du coup pénalisés, ça bouge les positions des autres. Mais c'est aussi le cas quand un pilote se retrouve mal classé en 18e, 17e position, c'est arrivé notamment à Schumacher cette année, et que l'écurie en profite pour changer la boîte en disant qu'on met une nouvelle boîte, ils exploitent la même faille du règlement. Ça modifie le classement, ça triche sur le classement. Donc moi je veux bien qu'on demande des clarifications, mais si on demande des clarifications, c'est pas seulement par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, c'est par rapport à l'ensemble
plus générale, c'est le fait de provoquer volontairement une pénalité. De façon générale.
Mais ça c'est fait plusieurs fois dans l'année, quand des pilotes sont 17e, 18e, ils font pareil, ils changent de boîte.
Oui, voilà, c'est pour ça quand je te dis une clarification, pas simplement le fait de la boîte et tout ça, on doit relier, c'est le fait de provoquer volontairement une pénalité pour en tirer un avantage.
Le problème c'est que tu vas clarifier comment? Tu vas demander aux équipes, tu vas dire aux équipes, vous n'avez le droit de changer, et vous n'êtes donc pénalisé de 5 places en classe sur la grille, vous n'avez le droit de changer de boîte de vitesse que s'il y a vraiment un problème. La FIA va vérifier comment qu'il y a vraiment un problème.
Non, mais dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Moi, je dis qu'il y a jamais de problème. Je change tous mes moteurs et mes boîtes au début, et puis voilà, je repars avec des boîtes et des.
Non, mais ça c'est pas possible dans la mesure où c'est pas du tout la vocation de la FIA.
Non, mais après, tu dis voilà, t'as pas le droit de le faire, et si tu le fais, tu gardes ta place. Bon, bah d'accord, j'ai pas le droit de le faire, je le fais, je garde ma place et je repars avec un moteur et une boîte neuve.
Quand on demande, d'après ce que j'ai pu lire, quand les gens demandent une clarification du règlement, je vais notamment reprendre ce qu'a pu dire Fab, je crois, on les pénalise de 5 places, mais que l'esprit de la règle, la pénalité 5 places, l'esprit de la pénalité, c'est tu prends 5 places pour changement de boîte si ta boîte est cassée. Donc ça voudrait dire que la pénalité de 5 places ne s'applique que si la boîte est cassée. Et si tu provoques cette pénalité sans qu'il y ait de nécessité derrière, tu prends bah, ce qui est pris dans le cas notamment de carburant, tu exclus des qualifications.
D'accord, c'est ça que je comprends.
Maintenant, le problème, c'est que concrètement, dans le règlement, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas demander donc aux écuries, l'article, il est déjà écrit, il est simple à écrire, c'est vrai, tu vas dire, donc voilà, pénalité de 5 places pour tout changement de boîte nécessaire.
Est-ce qu'il l'aurait pas fait
justifié aussi, par oui. un pépin mécanique?
Non, mais est-ce
maintenant,
qu'il l'aurait
derrière,
pas,
comment
de toute
tu
façon
comment
pas fait, quoi.
Oh, mais arrête, derrière... ils peuvent le voir si une boîte est abîmée ou pas.
Ça, ils peuvent le voir, mais est-ce que de toute façon, ils l'auraient pas fait?
Quel délai
non, bon côté,
d'abord, voilà. D'abord dans quel délai et ensuite est-ce que ça ne peut pas se simuler? Imagine le mec dans son tour de décélération, il suffit juste qu'il fasse un petit tête-à-queue, il passe la marche arrière. Ah dis donc, la boîte elle a cassé parce que j'ai passé la marche
oui,
arrière.
Oui, mais dans ce cas-là ils pourront vérifier la télémétrie.
Et alors qu'est-ce qui prouve? Non mais qu'est-ce qui prouve que le tête-à-queue il est volontaire ou pas volontaire?
La marche arrière, ça, on va la passer une fois.
Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que derrière tu t'embarques. C'est-à-dire que derrière tu t'embarques dans une clarification qui peut encore amener d'autres problèmes pour juste gommer une faille qui a servi une fois.
Mais c'est ça
voilà.
Le problème, c'est que si tu clarifies pas, rien ne dit qu'on va pas avoir de nouveau ces cas-là.
Est-ce que c'est un problème qu'ils utilisaient
ça? Mais dans ce cas-là, pour
est-ce
moi,
que c'est
la
vraiment un problème?
Consiste à dire.
Ah, c'est pour ça, je respecte complètement le fait que.
Non mais dans ce cas-là, faut juste revoir la pénalité, envisager un autre système
mais
de pénalité.
Mais pourquoi pas?
Voilà. Qui, par contre, pour cette fois, pour ce coup-là, soit peut-être vraiment dissuasif. Peut-être frapper tout simplement plus fort.
Ah mais pourquoi pas? Attention, je suis pas arrêté sur un type en particulier.
Pareil, qui part 11e, 12e, 13e ou 23e, c'est le même principe. Hein. Les mecs de Fernando, il aurait de toute façon parti du bon côté de la piste, il aurait gagné une place.
Ah déjà, vis-à-vis de la boîte, tu sais, hein, on peut tout à fait changer. Au lieu de mettre un truc tous les 5 courses, mettre un quota, ça on en avait déjà parlé, c'est pas normal que les moteurs aient des quotas et pourquoi la boîte n'aurait pas de quota. Et puis pourquoi pas faire à la limite comme pour les moteurs hein.
Mais le quota, pété, c'est pareil, Shinji. Si on prend l'idée d'un quota, l'idée du quota, c'est exactement le même. Ça n'empêchera pas Ferrari, par exemple, de monter une nouvelle boîte pour que derrière, il y ait 5 places de pénalité. Le quota, peu importe la formule, ça changera rien.
Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être supprimer, même si c'est dur, la sanction de 5 places. Et pourquoi pas que ce soit 10? Parce que reculer de 5 places et reculer de 10 places, c'est pas
c'est
non plus
la
même
chose.
Ouais.
Mais déjà que les gens gueulent quand ils prennent 5 places de pénalité, moi, je suis pas sûr que les fans soient contents de prendre
voilà.
5 places de pénalité.
Non, derrière. Mais...
Si 10 c'est places. 10 places, 10 places pour tout le monde.
Voilà,
que ce 10 soit places, moteur, de toute façon, pièce, 10 places.
Quand t'es 12e, c'est pareil. 10 places, voilà. Parce qu'après, quand tu pars derrière les HRT, les Marussia et souvent les Caterham, au bout de 3 tours, c'est comme si t'étais parti devant elles, quoi.
On aura beau chercher, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des failles à exploiter. Donner un règlement à une équipe, opportunité sera bonne. La Ferrari, ils ont été le plus malin, c'est que d'abord, ils ont pris cette décision-là. Et surtout, ils ont attendu, vraiment la limite maximale pour la donner. Ils ont dit, si on l'avait fait avant, d'autres équipes auraient simulé cette pénalité-là pour pouvoir regagner le côté propre. Mais voilà, moi ce que j'aime toujours, c'est qu'à chaque fois on critique la faille du règlement et compagnie des exploitations qui sont faites. Oui, on peut apporter des éclaircissements, mais quoi qu'il arrive, les éclaircissements qu'on va faire vont générer leurs propres failles. Il y aura toujours des failles.
Ah, mais on est d'accord, mais après si on part comme ça, on touche à rien.
Mais est-ce que c'est vraiment problématique de ne pas toucher, quoi?
Et peut-être finalement la solution, c'est peut-être tout simplement d'arrêter avec les côtés propres et sales de la piste qui intrinsèquement quoi qu'il arrive pénalise sur n'importe quel circuit, c'est une pénalité. Là on en a parlé beaucoup, mais sur d'autres circuits aussi c'est une pénalité. Peut-être tout simplement en nettoyant vraiment la piste au début, en instaurant une procédure de nettoyage de la piste, de la grille avant le départ, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de
en tout cas les réduire.
Ça c'est le problème, ouais, c'est les réduire, parce que
quand on prend Hungaroring, enfin voilà, Hungaroring, tout le monde dit vaut mieux être troisième que deuxième, parce que généralement Hungaroring, le premier, le troisième et le cinquième terminent avant le deuxième, quatrième, sixième, donc voilà, c'est... Mais il y a toujours ces calculs-là, on peut pas empêcher les équipes de faire ces calculs-là. On aura beau essayer de complexifier le règlement et compagnie, les équipes trouveront toujours un chemin.
Ça fait partie des spécificités de chacune des épreuves.
Mais c'est ce qu'a dit Dominique Ali en plus. Dominique Ali, il a dit, c'est juste professionnel.
Exactement.
Que on est obligé de penser à ça. Après, on peut parler d'éthique et compagnie. Moi, je suis d'accord, ça renvoie pas une bonne image de Ferrari.
Mais si, tout à fait... s'il l'avait pas fait et que Fernando perdait le titre à la fin de l'année de un point, s'il l'avait pas fait,
ben voilà, non,
ils
mais...
en auraient pas entendu finir d'entendre parler pendant des années et des années de cette histoire.
De la même manière que je crois que personne aujourd'hui ne tombe à bras raccourcis sur Adrian Newey, dont le boulot pourtant c'est de flirter avec le règlement, quitte parfois à le dépasser.
Non, exactement.
Il y a quand même des monoplaces cette année, des versions de la Red Bull cette année qui étaient à la limite de la légalité. Pourtant, tout le monde trouve que Adrian Newey c'est un génie et compagnie. Personne ne retrouve rien à dire. La Ferrari, ils font que ce que fait Adrian Newey, exploiter une faille de règlement. Tout le monde leur tombe dessus. Faut juste reconnaître qu'ils ont une interprétation géniale du règlement, de la même manière que Red Bull avait une interprétation génial à Abu Dhabi. Dire, bah voilà, derrière, la faille, elle existe. Est-ce que vraiment on peut la colmater? Moi, je pense qu'on ne peut pas, quoi qu'il arrive, on peut difficilement la colmater, sauf effectivement en infligeant des pénalités de place pair plutôt que impair. S'ils avaient une 4 ou 6, ça aurait rien changé. Ça aurait peut-être fait avancer Alonso sur la grille, mais ça l'aurait pas davantage avantagé.
Mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'ils ont fait à Abu Dhabi Red Bull, personne n'en a fait non plus des tonnes et des tonnes, parce que Red Bull, entre guillemets, est habitué à ce genre de choses, alors que Ferrari, là, comme c'est Ferrari, tout de suite, c'est soit la FIA est contre Ferrari, soit la FIA est pour contre Ferrari, et voilà. Mais honnêtement, moi, je préfère presque le statu quo, parce que ça, fondamentalement, c'est plus ou moins honnête, et tout le monde est au courant de ça. Avant que Vettel fasse ce qu'il ait fait, j'ai dit tout de suite, ils doivent faire ça. Quand j'ai appris qu'il l'ait fait, j'étais, ah, c'est 100% normal. Parce que partir dernier sur la grille ou partir dernier des stands, mais tu peux tout changer et tout régler comme tu veux. Tu changes même le moteur et la boîte, tu t'en fous. Et tu prends encore 5 places ou 10 places de pénalité. Eh ben, c'est pas grave. Tu remets une boîte et un moteur carrément. Parce que tu pars 24e de la voie des stands, bah, tu changes tout. Moi, je remets une voiture neuve. Je m'en fous, quoi. Au final. Puisque de toute façon, je pars dernier. Et après, je règle tout, quoi. Et ça fait des années. Si je me souviens bien, il y a d'autres années où il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait similaire, de manière un peu similaire, qui, sachant qu'ils partaient 22e ou 23e ou je sais pas combien, ont décidé. Schumacher l'avait fait aussi une fois, il y a pas si longtemps, non?
Mais ça a tout le temps été comme ça aussi. Enfin,
ça m'a jamais choqué.
Voilà, c'est. Mais moi, encore une fois, je reprends. Sincèrement, je fais pas mon fan de Ferrari. Hein,
moi non plus, jamais.
C'est l'écurie que j'aime, mais je fais pas mon fan de Ferrari. Mais sincèrement, quand je vois qu'on reproche à Ferrari de dire, ah, en plus ils s'en cachent même pas. Mais ils s'en seraient cachés. Vous auriez gueulé parce qu'ils s'en cachaient.
Voilà.
Là, les mecs, ils ont l'honnêteté de dire. Et Dominique Alidi, voilà, on s'en cache pas, on le reconnaît. Oui, on a profité d'une faille. Oui, on a fait de la stratégie. Et là encore, on leur tombe dessus, quoi. Donc, j'ai vraiment par moment l'impression que Ferrari, quoi qu'il fasse, il y aura toujours des gens pour leur gueuler dessus.
Allez, on va reprendre la grille. À la 6e place, Michael Schumacher.
Très bien, par rapport à Rosberg spécialement, mais en partie grâce à son fond plat. Maintenant, on a vu.
Attends, je regarde si on va en parler après.
Non, on va pas en parler après.
Non, bah oui, très bien, non, très bien. Course catastrophique, mais Schumacher.
Ah ouais, oui, voilà.
Ah non, mais en course, c'était le Titanic. Hein. C'était une lente agonie. Tu le voyais reculer. À un moment donné, Schumacher, il est 14e. Non, il s'est arrêté.
Non, il
s'est pas arrêté.
J'avais l'impression qu'au fur et à mesure, il changeait de voiture. Au début, il était parti avec une Mercedes. Après, c'était une Sauber. Après, c'était une Toro Rosso. Et il a fini avec une Caterham, quoi. Le pauvre.
Sinon, après Tirpé des Lotus, Raikkonen 5e, Grosjean 4e. Donc avant, ça s'appelait
ouais,
bien. Bien pour les deux, quoi. Spécialement de nouveau.
Bien pour Grosjean.
Qui a de nouveau repris l'ascendant en qualif. Spécialement après avec ce problème de boîte.
Alors, même si je me demande sur Grosjean, s'il a pas été bon en qualif aussi, peut-être parce qu'on, en sachant qu'il y avait la pénalité derrière, peut-être qu'on a été un peu plus agressif.
Ouais.
Voilà, peut-être qu'on lui a donné plus de puissance moteur et compagnie.
Et que dans Raikkonen, c'est aussi un peu détendu parce qu'il était là de toute façon, je pourrais pas faire beaucoup mieux et je récupérais
la place. Je pense sincèrement, je me demande si quand même dans Grosjean, bon, même si on a vu en course que ça avait assuré derrière, mais je me demande si on lui a pas donné un peu plus de moteur et compagnie, on sait que les équipes gèrent, et si on lui a pas donné légèrement meilleur pour qu'il gagne une ou deux places sur la grille.
De toute façon, avec le nombre de moteurs qui ont fait un tour, et il en a assez pour que lâcher, quoi. Mais la plupart de ces moteurs, ils ont pas fait la moitié des quotas qu'ils devaient faire. Donc, mais c'est bon, il reste de grands prix, tu les mets, tu les exploites au maximum maintenant, ces moteurs.
En même temps,
c'est pas compliqué.
Les crashs qu'il a eu, moi, je suis pas sûr que j'utiliserai ces moteurs.
Il y a certains qui ont dû moins manger que d'autres, quoi, quand même.
Tu vois, celui de Spa, bizarrement, je crois qu'ils vont le garder pour la fin. Si vraiment il y a besoin.
Sinon, troisième, Marc Weber.
C'est bien, c'est pas trop mal pour lui aussi. Mm. Bon, et là, il a pas planté ses qualifs pour une fois, comme certaines fois il l'a fait, quoi.
Deuxième, Hamilton.
Très bien.
Raté son coup, il était vraiment très très bon. Il est pas passé très très loin.
Vraiment, ouais.
Mais peut-être que la McLaren était bonne.
Mais la McLaren est pas mauvaise en cette fin de saison.
Non, parce que, encore une fois, tout le monde va dire, ah, Hamilton, il sait ce qu'il fait, c'est merveilleux et compagnie. Bon, peut-être. Mais on peut pas non plus, de la même manière que Sébastien Vettel tout au long de la saison, on peut peut-être pas non plus oublier que peut-être que la McLaren était meilleure ce week-end. c'est toujours le problème, c'est quand on essaye toujours de savoir le degré qu'apporte le pilote, mais le problème c'est qu'on peut pas le savoir et qu'on saura jamais ce qu'apporte Vettel en 2011 ou en 2012 à la Red Bull et ce qu'il gagne de la Red Bull au contraire, de la même manière que là sur la qualif, qui est-ce qui est le meilleur? Est-ce que c'est Lewis Hamilton qui fait la différence ou est-ce que c'est juste la voiture après trois séances d'essai où ils ont bien travaillé et compagnie, la voiture qui était performante à l'instant T et compagnie, derrière ça a été aussi le cas. C'est toujours pareil, quoi. On ne peut pas juger seulement un pilote. On juge le pilote et l'équipe.
Non, mais bonne fin de saison, hein, parce que déjà après Abu Dhabi, où voilà, il aurait dû gagner.
Mais globalement, non, mais c'est ça qui McLaren, ils font une bonne saison, mais ils ont de temps en temps 2-3 grands prix de vide.
Ouais, non mais c'est ça qui
est... ils font pas grand-chose.
C'est ça qui est marrant, c'est qu'on a trois écuries de aux trois top positions qui sont à des profils très différents. On a d'un côté Red Bull qui est assez fiable et assez performant. On a de l'autre côté
fiable. Ouais, ça a mis du temps quand même avant de
à part sur la voiture de Weber où il y a toujours des problèmes de Kers.
Ouais, toujours.
Il bon, y a aussi quelques problèmes sur Vettel.
Non, les alternateurs, c'est pour ça que je dis les alternateurs, ils sont assez fiables quand même. Ils se plaignent que il y avait comment ça s'appelle maintenant la Red Bull qui fait style que c'est des pauvres malheureux au point de vue fiabilité. C'est plus McLaren qui a des problèmes de fiabilité cette saison que Red Bull.
Non, je suis pas d'accord.
Attends, il y a Button, l'accélérateur là pour les qualifications. L'autre fois, ils étaient en course de nouveau, la voiture s'arrête à cause de la pompe à essence. La fois d'avant.
Si tu prends en compte les problèmes de Weber, le problème d'alternateur de Vettel, l'abandon aussi sur panne mécanique, encore à l'alternateur.
Dimanche, l'alternateur c'est le plus grand allié de Fernando Alonso. Dimanche prochain. Ouais.
Là, ça fait quand même pour Red Bull, c'est quand même 3 abandons sur casse d'alternateur. Il y avait eu aussi un autre abandon. Je crois pour Weber à Monza sur casse mécanique aussi. Si tu rajoutes à ça aussi des problèmes de Kers, les fuites de liquide comme il y a eu ce week-end, Red Bull est pas forcément meilleur que Mercedes en termes de fiabilité.
À part pour les alternateurs qui a vraiment coupé totalement, c'était pas des problèmes comme McLaren qui a eu des problèmes différents à chaque fois et qui chaque fois étaient des problèmes qui mettaient fin ou presque à la course.
Oui, mais non, mais les problèmes de fiabilité, tu mesures pas les problèmes de fiabilité par rapport aux conséquences qu'ils ont. Le fait est que les deux équipes ont une fiabilité qui est très mauvaise.
Alors que Ferrari a une fiabilité.
Bah, Alonso, cette année, quand on lui rentre pas dedans, il finit tout le temps dans les coins.
C'est ça.
Aussi, et donc, Paul de Vettel.
Vettel.
Sa 36e sur 100 Grands Prix.
C'est pas passé loin de
pas mal.
Ça fait quelque chose comme à la louche.
36%.
À peu près.
À la louche.
T'es pas très fou, même si on n'est pas très fort en maths, c'est possible là.
C'était la 46e pole pour Red Bull, la 202e pole pour Renault, à une moyenne de 207,479. Donc il y a plus rapide, mais c'est une bonne moyenne quand même pour ce circuit. Donc à noter hein, par rapport à la qualification, donc Grosjean qui était 4e a été rétrogradé de 5 places pour changement de boîte, et donc Massa qui était 6e a été rétrogradé de 5 places suite à la casse des scellés de sa boîte de vitesse. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont changé la boîte? Non, ils ont juste cassé les scellés.
Ah non, ils ont juste
cassé. C'est bien possible parce que parfois scellés. Certains disent oui, ils ont changé la boîte, fallait juste. Non, ils ont juste cassé les scellés. Ça suffit.
Pas besoin de bosser. Hop, un petit couteau.
En fait, je me demande si casser la boîte, ça les obligeait pas de changer la boîte.
Ça aurait pris plus de temps.
Et donc du coup, la FIA l'aurait su avant, donc les équipes auraient pu réagir avant. Je pense qu'ils ont peut-être dû, ils se sont juste dit, à la dernière minute, on casse les scellés.
Regardez, c'est dommage.
Ah, c'est ballot.
Si les scellés sont cassés, c'est comme si t'avais changé ta boîte ou que changer des réglages.
Bah, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le scellé est cassé, la FIA ne peut plus vérifier si théoriquement on a touché à la boîte ou pas, voilà. On va passer à la course et au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et alors Dino, quels sont les pilotes qui ne font pas partie du top 10 cette semaine?
Ah, ne fera pas partie du top 10. Heikki Kovalainen qui a marqué 0 points
et triste.
Occupe la 24e place. À noter quand même que le vainqueur, dont nous tairons l'identité secrète jusqu'à la fin du top 10, possède 1892 points et nous vous remercions de votre participation. En 23e position, nous avons le japonais Kamui Kobayashi avec 7 points, 1 point de plus pour Vitaly Petrov, 8 points, 22e position. Avec 13 points, Neran Kartikeyan termine 21e du classement du SAV, une place derrière Timo Glock, 20e avec 15 points. Paul Di Resta avec 16 points et 19e, De La Rosa avec 20 points et 18e, Jean-Éric Vergne avec 28 points et 17e, tandis que Sergio Perez, qui s'est mieux classé en course, avec toujours 28 points, se classe en 16e position. En 15e position, nous avons Nico Rosberg, 30 points, en 14e devant Charles Pic, 35 points. En 13e position, le chiffre qui porte chance à Michael Schumacher, nous avons donc Schumacher avec 61 points. En 12e position, nous avons Daniel Ricciardo avec 85 points. Et Mr. Eleven cette semaine et Mark Webber, 133 points.
Alors à noter que Jérémy, alors tu as donné un point. Alors à la fois Adlock et Pic, finalement tu donnes à Pic, mais c'est pour l'équipe Marussia.
Voilà, pour les qualifications, spécialement.
Dino, tu as donné un point à Vergne.
Ouais, pour les qualifs.
Oui, pour la pole, enfin pour la pole, pour la qualif. Il a fait une belle qualif et que voilà, moi je donne des points quand c'est mérité. non, et puis s'il avait pas eu son problème de suspension. D'ailleurs, ça fait quand même beaucoup de problèmes de suspension spécifiquement sur la Toro Rosso de Vergne. Donc je ne sais pas si c'est la Toro Rosso qui a des suspensions en verre ou si c'est lui qui bouffe peut-être un petit peu trop les vibreurs, et donc il va peut-être falloir qu'il réfléchisse à plus trop les bouffrer, mais voilà, ça gâche encore sa course, qui aurait pu être plutôt belle quand on voit où a terminé son collègue Ricciardo.
Et à noter, justement, Ricciardo, je lui ai donné un point, tu lui as donné 6 points, Dino. Très bon début de course.
Très bon début de course, et sur la même stratégie que les autres, c'est-à-dire qu'il est en pneu médium, les plus tendres, et il fait durer son relais, il a fait une course solide, il s'est retrouvé 5e à un moment donné. Voilà, bon, après en fin de course avec les après la valse des arrêts, bon, ça
moi j'ai 7e, hein, Ricardo.
Au max.
Au max.
En course. Au max, il a été 5.
Ah oui, tu as raison.
Ouais, il est remonté.
Tout à fait.
Et donc voilà, moi je trouve qu'il a fait une plutôt belle course. Il s'est placé en position pour qu'on le voie. Bon, pour moi, ça méritait d'être souligné. Et voilà, et en plus, il partait 18e, il finit 12e. Donc voilà, il a gagné des places. Bravo.
Et donc à la 10e place, il a marqué 156 points. C'est Pastor Maldonado. Nous, on lui a pas donné de points. Mais il a fini 10e, hein, donc ça comprend aussi.
Non, 9.
9. Ah oui, ben oui, non, tu as raison. 9. Je confonds avec
l'autre. J'ai les deux classements devant moi.
Non, parce que je confonds avec l'autre, avec Senna qui lui a fini 9e de notre classement. Voilà.
Oui, Dieu sait que cette 9e place, c'est ardemment
en plus. Mais voilà, c'est
alors qu'il a fini lui-même 10e. Voilà. Derrière Maldonado.
Puisque Senna, lui, a 160 points. Vous voyez, ça s'est joué à 4 points. Moi, je lui ai donné 2 points. Comme aussi. Jérémy, moi, c'est surtout au classement. Mais voilà, c'est vrai que, comme j'ai dit, il fait quand même au final une bonne fin de saison.
Voilà. Moi, c'était lui ou Maldonado en 9e place, et comme Maldonado, c'était Senna, voilà.
Ah, j'ai quand même bien aimé le petit coup de roue de Maldonado.
Ouais.
On aime ou on n'aime pas Maldonado, ouais. Mais quand même tenter ça sur son coéquipier.
Non, mais,
oui, c'est vrai, bon. Oui.
C'est que t'as aucun respect pour lui.
Mais pour rien, pour personne.
Alors que tu sais que t'auras pas travaillé avec lui l'année prochaine.
En plus, Sir Franck était là, quoi. C'est-à-dire pour lui donner des sœurs froides au patron.
Ouais. Avec le nombre de voitures qu'il a pété cette saison, il voulait encore péter la sienne et celle de son coéquipier en même temps, quoi. Moi, il me fait mal au cœur avec tout ce qu'il pète chez Williams, quoi. Mais bon.
Allez, 8e place, 314 points. Je lui ai donné 4 points, comme Jérémy. Dino, tu lui as donné 2 points, c'est Hülkenberg.
Ouais. Ouais.
À sa place.
Il fait une course à la Hülkenberg. Voilà.
Le meilleur des autres.
Mmh, ouais, on pourrait dire ça, oui, tout à fait.
Ouais, c'est le meilleur des autres.
Le meilleur des autres.
Ce qu'il fait en ce moment, c'est... Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est Di Resta qui représente le niveau de la Force India, exactement. Donc du coup, en Calas, c'est énorme ce que fait Hülkenberg, ou alors est-ce que c'est Di Resta qui est en dessous du niveau de la Force India. Quoi qu'il arrive, c'est mauvais pour Di Resta. Parce que quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il plafonne. Non. Donc voilà, sincèrement, ce que fait moment Hülkenberg, c'est...
Moi, je pense que c'est plus Hülkenberg, parce que Di Resta, il n'était pas ridicule depuis qu'il est là, quoi, à part ça. Et là, vraiment, c'est année Hülkenberg, bon, bien sûr.
Ouais, mais
la première année, il a mis aussi.
Il a changé de configuration. Enfin, il y a aussi, je crois qu'ils ont adopté les échappements Kanda et compagnie. Peut-être qu'il y a des évolutions qui aujourd'hui répondent mieux au style de Hülkenberg et moins au style de Di Resta.
Non, Hülkenberg, faut pas oublier qu'il avait fait qu'une seule saison chez Williams. Et que là, il n'avait pas roulé depuis un moment aussi. Donc, il lui faut de nouveau de trois grands prix pour revenir en jambes. Et quand on voit comment il avait fini la saison chez Williams, déjà, à l'époque, c'était là où il avait signé la pole position à Interlagos.
Ouais, mais là, l'écart quand même, il est énorme. Non,
mais
quoi.
Vous vous souvenez pas Interlagos qu'il avait signé la pole?
Brésil.
Oui, mais non, mais là, aujourd'hui, l'écart est énorme.
Il n'était pas avec Barrichello à l'époque, chez Williams. Alors, quand on voit ce que Barrichello avait fait chez lui, et c'est pas comme s'il la connaissait pas, cette piste Barrichello, hein, depuis tant qu'il était déjà en Formule 1, le petit, quoi. Et c'est chez
lui. Oui, non, mais la pole, enfin,
non mais voilà, la
pole en 2009, faut quand même replacer dans
bien
son contexte.
Bien sûr, c'était parce qu'il a été perdu des circonstances et tout ça. Mais malgré tout, il avait réussi à étonner tout le monde grâce à cette pole, parce que personne.
Non mais le niveau du Hülkenberg, enfin on a conscience que c'était un très bon pilote, voire un potentiel.
Il avait un gros potentiel.
Il fait partie de ces pilotes dont on dit qu'il a le potentiel pour être champion du monde un jour.
Il a très peu d'expérience.
Gagner des grands prix, compagnie.
Il a même pas fait. C'est sa deuxième saison et c'est pas sa deuxième saison à la suite. Donc.
Mais là quand même, la différence sur cette fin de saison avec Di Resta, c'est quand même impressionnant, quoi. Alors, est-ce que c'est seulement le talent de Hülkenberg? Je pense qu'il y a une partie de Kvyat et Panik qui se sent mieux. Je pense aussi qu'il y a une partie de la voiture qui fait qu'aujourd'hui il se sent peut-être plus à l'aise avec la voiture que Paul Di Resta. Parce que vraiment, la trajectoire, enfin voilà, c'est deux trajectoires complètement croisées. Paul Di Resta qui le dominait en début de saison, et là aujourd'hui qui est dominé par Hülkenberg.
Je pense que Hülkenberg commence à finir par trouver ses marques en Formule 1, quoi. Je pense surtout ça, quoi. Alors que peut-être Di Resta pas encore.
Là, il grimpe en plus.
Mais là, Hülkenberg, maintenant,
c'est dommage qu'il ait qu'un contrat d'un an chez Sauber.
Mais c'est normal. Tu connais ma théorie.
Oui, bah oui, mais bon.
Je te rappelle en plus que Raikkonen, il va peut-être pas faire une année supplémentaire. Donc, il monte chez Lotus en 2014. un an. Bon, ça risque de lui provoquer une carrière assez courte, mais bon.
Bah, surtout que c'est risqué tellement c'est... Ou alors, c'est vraiment que t'es confiant en ton potentiel. Bah, quand tu permets en début de carrière de ne faire que des contrats d'un an, c'est vraiment que t'es confiant en ton potentiel.
Il est quand même...
Il
est sacrément confiant en lui. Parce qu'au final, pourquoi il est pas resté chez Williams?
Bah oui.
Dès la première saison, il a demandé l'année prochaine, vous me payez beaucoup plus cher, quoi.
Bon, c'est surtout, je pense, Williams, c'est surtout pas tant ses exigences salariales que le fait que, bon, il était pas en mesure de ramener l'argent que ramène un certain Pasteur
aussi,
M.
Aussi, oui.
Je pense que
y
voilà.
Il y a un mélange, on va dire. À la 7ème place, il a marqué 543 points. C'est Romain Grosjean. Alors moi, j'ai donné 8 points. Dino, tu lui as donné 12. Et Jérémy, toi aussi, tu lui as donné 8 points. Très belle course de Grosjean. Il fait partie de ceux qui m'ont le plus impressionné ce dimanche. Il y en a deux qui m'ont impressionné ce dimanche, d'ailleurs.
Où est le deuxième? Ah, pas de question.
Je les ai pas forcément mis premier, mais voilà. Sur l'impression que j'ai eue... Il a mal commencé. Ça a mal commencé. C'est bien.
Ouais, clairement.
Il a expliqué comment son tête à queue. Il a dit que c'était une faute ou parce que il part quand même de super loin, je trouve, son tête à queue.
Je crois qu'il était trop bêtement excité derrière. C'est Hülkenberg qui était devant lui.
Hülkenberg.
Et qui.
Mais ça, moment, il se.
Ça le démangeait depuis 2-3 tours. Ça le démangeait depuis 2-3 tours. Et il s'est pas encore suffisamment bien scanalisé, quoi. Mais le problème, c'est qu'il voyait les autres déjà devant s'éloigner, alors que les mecs derrière lui étaient quand même restés derrière lui et que lui sentait le potentiel pour suivre plutôt les autres de devant, quoi. Mais c'est là où on voit la différence de nouveau entre un Grosjean et un Raikkonen.
Donc il est descendu de la 6ème à la 22ème place.
Après son arrêt.
Voilà, pour finir.
Donc, finalement, il perd pas forcément tant de. Quand on voit son accident, il perd pas finalement ça, tant de temps que ça.
Non.
Parce que je crois qu'il repart, il doit trouver dans la bataille pour la 10ème place.
Ouais, alors après il chute, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de voitures qui le doublent d'un coup.
Non, c'est pas ça, c'est que il est reparti à un très bon moment entre guillemets pour lui parce qu'il a pu rapidement, il était pas très loin de Pic et de Glock à ce moment-là, deux l'ont laissé passer entre guillemets parce qu'ils savent très bien qu'une Lotus c'est pas la même chose que pour.
Non. Donc les deux quand il repart, il est à la lutte avec Schumacher et compagnie qui sont en train de se battre pour la 10ème place. Il fait un ou deux tours, il commence à perdre des places, il décide de l'arrêter pour mettre des pneus plus frais,
voilà.
Et là il repart, il est 22ème,
voilà,
et de la 22ème il remonte à la 6ème place.
Il s'est pas arrêté d'ailleurs après.
Non, il a fait qu'un seul arrêt.
Il est remonté à la 7ème.
Oui, donc il a fait plus de 40 tours avec les durs, quoi.
Il a très bien suggéré, mais sur la fin.
C'était pas nécessairement un handicap non plus.
Non.
Sur la fin de course, c'est marqué.
Quand même.
On voyait. Oui, mais non, parce que sur la fin de course, il faisait exactement les mêmes temps que tous les autres. Donc, il avait mais même plus rapide que tous les autres. Quand je disais tous les autres, c'est Raikkonen et les mecs devant, entre guillemets. Donc, c'était pas un souci pour lui. J'étais commencé à m'inquiéter en me disant merde, il est en train de se faire revenir par Hülkenberg un petit peu.
Non, mais sur les pneus, il y avait aucune inquiétude. Enfin, le mélange des pneus, quand vous avez Pirelli qui dit on va amener l'année prochaine les super tendres à l'étendre, et que là cette année ils avaient amené les médiums et les durs. Bon, théoriquement c'est les Bridgestone quoi qu'ils avaient ce week-end.
Qu'ils aient fait ça cette semaine, ça ne me choque pas.
Abu Dhabi,
c'est abusé parce qu'ils connaissent. Ils connaissaient pas.
Non, mais si vous pouvez pas se permettre un Indianapolis de nouveau quoi. Si on refaisait le coup aux Américains du 2005, la première fois qu'on revenait, c'est bon quoi.
Mais c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de discussion entre le circuit, enfin. Qu'il soit aussi surpris par le degré de d'abrasivité de la piste, c'est quand même étonnant. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas davantage de discussion entre Pirelli et les responsables.
Ils ont reçu des échantillons qu'ils ont testés.
Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de courses avant?
Non.
Non, tu vois.
Non, mais en plus, c'est le problème de la piste, c'est même pas les courses d'avant, c'est juste que le niveau d'abrasivité du bitume qu'ils ont utilisé, c'est sans doute l'un des plus faibles de l'année, quoi. Donc, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que Pirelli, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait des relevés topographiques pour étudier la structure des pneus et compagnie, pour savoir quel type de pneu serait plus adapté pour le circuit, mais sur la gomme spécifiquement, comme tu l'as dit Jérémy, théoriquement ils ont dû recevoir des échantillons et compagnie, même ne serait-ce que d'avoir des informations, de communiquer avec les gens sur place, qui ont dû lui dire on va avoir un asphalte qui est pas abrasif du tout. Donc je trouve ça quand même assez étonnant qu'ils se soient aussi lourdement trompés dans leur choix.
Il y a deux choses à ce niveau, c'est qu'en fait là l'asphalte c'était moins poreux que ce qu'ils avaient prévu, donc du coup ils étaient moins abrasifs, et que comme il était moins poreux, il a rejeté beaucoup plus d'huile, que parce que le goudron est tout neuf. Donc l'année prochaine, quand le goudron aura rejeté toute l'huile, parce que au bout de 6 mois, 1 an, il aura fini de rejeter les majorités de l'huile actuellement qui est stockée dans le goudron, il aura un comportement différent. Et entre le fait qu'il soit moins poreux, l'huile qui est remontée est restée encore plus en surface, et comme il était entre l'huile et moins poreux, moins abrasif, a fait qu'il a été encore moins abrasif que ce qu'il pourra l'être dans les années à venir. De nouveau, dans 4-5 ans, quand sera bien aussi de nouveau bien comme il faut, il n'y aura plus d'huile, problème d'huile, avec la largeur de la piste, il y a des endroits où il pourra y avoir quand même des dépassements aussi sympas de 3 ans.
Mais même déjà avant, il y a certains spécialistes, moi je sais sur Sky Sport, ils expliquaient que les virages aussi étaient conçus de manière à ce que tu puisses les aborder avec des lignes différentes dans les virages.
Exactement.
Et ça s'est bien vu ce week-end.
Ils ont bien
aussi en partie grâce à la difficulté de trouver de l'adhérence, mais voilà, il y a pas forcément une ligne idéale sur tout le circuit. Ouais. Il y a par certains virages plusieurs lignes qui sont possibles.
Même dans la voie des stands, tu peux y aller à quatre de front là.
On est aux États-Unis.
Ah c'est clair.
Au Texas en plus.
S'il y a un truc au Texas, c'est aux États-Unis, c'est la ligne des stands.
Ah, mais en plus on est au Texas. Alors au Texas, c'est le pays où l'État aux États-Unis où tout est plus grand que le reste des États des États-Unis.
T'as l'emplacement où il s'arrête et t'as largement la place pour mettre une deuxième voiture entre l'entrée du box et l'arrêt.
Mais je crois qu'ils.
Bon, faut quand même préciser aussi que je pense que la voie des stands est étudiée pour aussi accueillir d'autres championnats, notamment nord-américains, qui n'utilisent pas de box.
Voilà.
Pour ça, l'IndyCar et compagnie.
Non, mais c'est malin. C'est très bien.
Enfin,
c'est...
je pense que tout le monde se rappelle des stands à Indianapolis. C'était pareil, voilà. Quoi. Les stands à Indianapolis, ils étaient une largeur incroyable. Bah oui, parce qu'en fait, les stands F1 se trouvaient derrière les stands IndyCar.
Mais c'est bien pour un circuit qui justement a été construit plutôt pour la F1. Au moins, on voit qu'ils pensent.
Et puis c'est sûr.
Je crois qu'ils se sont plaints que c'était peut-être un petit peu étroit quand même.
Dans les box, voilà, quoi. Il y a beaucoup de place dans les box. C'est pour ça que je pense qu'il y aura peut-être pas de NASCAR dessus.
De la NASCAR peut-être pas, mais l'IndyCar.
La NASCAR, je pense pas. L'IndyCar peut-être. Mais la NASCAR, ouais. Ça c'est sûr.
Les mecs avec deux largeurs et demi de box au lieu de trois largeurs de box, donc c'était quand même un peu plus serré.
Il n'y a pas assez de box, à moins qu'ils fassent une ligne spéciale NASCAR.
Non, mais je pense aussi que ce qui était bien avec cette voie des stands qui était très large, je pense que ça a aussi été fait pour que les gens du bas de la tribune, en face, puissent voir quand même les ravitaillements et compagnie. Donc c'est un peu plus loin.
Pas comme Silverstone.
Et du fait que c'est un peu plus loin, les gens qui sont en bas, déjà que les tribunes étaient un peu surélevées, les gens qui étaient en bas de la tribune, comme c'était un peu plus loin, l'angle était un peu plus plat, donc vous pouvez plus facilement voir les arrows stands.
Allez, 6e place. Il a marqué 707 points. C'est Kimi Raikkonen. Moi, je lui ai donné 6 points. Dino 4, Jérémy 10.
Ouais. J'ai donné 4 points pour son dépassement.
Ah oui, c'était sur qui? Merde, c'était sur qui?
Je sais pas, une Sauber.
Juste avant les S en plus.
Une Sauber ou non, c'était attends, je me demande si c'est pas une c'est une Sauber, une Williams.
C'est pas quand il a repassé Perez.
Ah, c'est peut-être Perez.
C'est quand il a repassé Perez que Perez était ressorti que lui était sorti des pistes de la voie des stands et qu'il y avait Perez avec les vieux pneus avant qu'il change ou quelque chose comme ça quoi.
Mais bon, ça c'est le type de dépassement voilà.
Non mais justement,
on part quand même d'un mec qui a dépassé un pilote dans le 130R.
Ouais, mais justement, c'est une des fois où entre guillemets Raikkonen cette saison a fait quelque chose de sympathique parce qu'il a toujours fait le boulot, il y a rien à dire. Oui. Ça c'est clair et net. Mais c'est une des fois où on est là, ah, c'est quand même Raikkonen.
Ouais.
Bon là, parce c'est vrai que ce week-end, c'est pas non plus à part non. Ça.
Mais il fait le boulot à part
voilà,
ça,
c'est ça. C'est au taf, voilà.
C'est le mec, il a ramené la voiture à tous les grands prix.
Moi sincèrement, il fait un beau dépassement, simplement en dehors de son dépassement, il a pas fait grand-chose de remarquable en course. Qui font voilà. Que comparé à d'autres, enfin voilà, moi il y en a d'autres qui ont fait des trucs remarquables comme Ricciardo, comme Grosjean, ouais. Que du coup j'ai mis devant et c'est parce que ceux-là sont devant que lui est un peu plus derrière, mais sinon bon, il termine 5e de la course.
6e.
Ah non, c'est 6e, j'ai oublié Massa.
Allez, 5e place, 751 points. Eh bien c'est Button. Ouais. Button, Dino et moi on l'a mis pareil, 5e. Toi en effet tu l'as mis 7.
Ouais, il m'a pas spécial. Il a fait mieux que les qualifs, mais une fois de plus, une course à la Button qui fait son boulot mais qui fait rien de voilà quoi.
Bah, les qualifs, il peut rien faire.
Ouais, mais il aurait presque pu faire mieux que 5e en finale. Voilà, tout ce que je peux dire quoi. Massa, il part 11e, il finit une place devant lui quoi.
Ah, c'est un peu tout le temps ça.
Non mais Massa commence en pneu tendre et finit en pneu dur, là où Button commence en pneu dur et finit en pneu tendre.
Raikkonen la stratégie de Button est plus intéressante au niveau pneu quoi. Il pourrait faire mieux potentiellement.
Moi c'est pour ça que j'ai pas mis plus haut. Moi Button Button, je l'aurais mis plus haut parce que je trouve qu'il a fait une course assez intéressante, assez agressive, assez incisive, des beaux dépassements, de l'expérience. Moi, j'aimerais voir davantage ce Button là, et je pense qu'on le verra peut-être davantage l'année prochaine. Voilà, un peu plus agressif. Il sait être un peu comme Raikkonen, quoi. Il sait être agressif et propre en même temps. Ouais. Voilà, je pense vraiment que s'il essayait un peu de modifier son pilotage pour être un peu plus agressif, ça serait franchement superbe à voir. Et moi, je trouve qu'il a fait une bonne course. Là où justement je l'ai pas mis plus haut et j'en ai mis d'autres devant, notamment Grosjean devant, c'est oui parce que lui part en pneu dur, il finit en pneu tendre. Moi c'est toujours des stratégies en dehors du top 10
que j'ai séparé.
qui sont un peu décalées quoi et qui sont aussi un peu plus faciles à mener parce que quand tu t'arrêtes plus tard, t'as plus le champ libre que.
Non mais Grosjean a fait une plus belle course, c'est pour ça que j'ai mis aussi devant je trouve. Mais bon, moi dans mon classement j'ai mis Button 7e et Grosjean 6e. Alors que justement ils finissent quand même Grosjean 7e et Button 5e à la base. Parce que je considère que par rapport à la voiture qu'il avait une fois de plus, Button pareil, il a une voiture qui est supérieure à la Ferrari actuellement, la McLaren est supérieure à la Ferrari pour moi.
En course, je suis pas certain.
Ah, même en course hein. Quand on voit ce que fait Hamilton et ce que fait Alonso, bon peut-être que Massa a la voiture un peu différente avec les échappements, mais
Massa m'a plus impressionné cette course quoi, clairement.
Parce qu'on est peut-être pas habitué en fait.
Alors à la 4e place, il a marqué 1066 points. Je l'ai mis 4e, Jérémy l'a mis 2e et Dino l'a mis 6e. Oui, sixième. Ouais. C'est oui, Fernando Alonso.
Ouais, j'ai été gentil parce que une fois de plus, il a bien sauvé son week-end, spécialement par rapport à Vettel. Il a bien sauvé les meubles quoi, avec la voiture qu'il a.
Il fait rien en course.
Mais il fait rien, mais une fois de plus, regarde où est-ce qu'il finit quoi. C'est la magie d'Alonso quoi.
Non mais on est bien d'accord.
La magie d'Alonso.
Il gagne 4 places au début mais... puis après
Oui mais alors attention, voilà, c'est là où je suis cohérent par rapport à Vettel il y a 15 jours, c'est que certes, c'est vrai il fait un beau départ, mais on ne peut pas retirer de son beau départ le fait qu'il part du côté propre alors que théoriquement il aurait pas dû partir du côté sale. Même si théoriquement sans la pénalité de Grosjean, il aurait dû quand même partir du côté propre.
Non, voilà, mais au final il fait une bonne course, même s'il finit à 30 secondes ou à je sais pas combien des premiers, il a ramené sa voiture sans risquer lui d'abîmer sa mécanique. Parce que c'est pas Massa derrière qui allait le stresser à l'arrivée, quoi.
En même temps, donc, c'est pour quelqu'un qui joue le titre.
Mais il peut faire quoi
de
plus?
Il reste plus que deux courses.
Le mec, il fait
quoi de plus? Il peut rien faire de plus.
C'est ça le problème.
Mais vraiment, une fois de plus, il a fait le mieux qu'il pouvait.
Mais en même temps, c'est de sa faute aussi. S'il peut pas faire mieux, c'est aussi parce qu'il a choisi de garder le nouveau diffuseur plutôt que de faire ce qu'a fait Massa en prenant l'ancien diffuseur.
C'est vrai.
Et il s'est planté, donc ça aussi, ça fait partie de son erreur. C'est son erreur.
Comment aurait réagi un Vettel ou d'autres?
Non, mais sinon, à chaque fois, on met Alonso premier parce que, dans le même cas, Alonso est meilleur que les autres. Là, sur la course, il fait un beau départ, mais le départ, il est aussi entaché un peu de la stratégie qui a été menée par Ferrari, donc faut en prendre en compte. Et sur le reste de la course, certes, il sauve les meubles, mais il fait rien de sensationnel. Il fait une course anonyme, où il fait rien d'autre. Moi, je le mets 6e parce qu'il y en a d'autres que j'ai vus devant, et il y en a d'autres qui se sont manifestés devant et qui méritaient peut-être un peu plus par leurs actions sur la piste, une place sur le podium. J'ai mis qui devant? J'ai mis Massa, j'ai mis Grosjean, j'ai mis Button. Voilà, ça me semblait un peu plus méritant que Alonso qui pas forcément de sa faute, il a effectivement peut-être utilisé à fond sa monoplace, mais il pouvait pas faire mieux, il a pas fait mieux. Donc...
Le fait que sous pression, une fois de plus, Alonso sauve les meubles et fait la magie d'Alonso.
Il a pas été sous pression.
Il pouvait très bien perdre le titre aussi, quoi.
Vu l'expérience qu'il a, la pression.
Ben voilà, Alonso. Entre guillemets, la magie d'Alonso.
Mais non, pas Alonso. Tu peux pas dire voilà Alonso. On peut pas dire Alonso non plus. C'est un magicien, non. Il a fait son boulot aussi. Enfin.
Ben, c'est le seul qui le fait aussi bien.
On va quand même pas s'extasier parce qu'Alonso.
C'est le seul qui le
voit l'arriver.
À la base, je suis pas fan d'Alonso, quoi. Et ni de Ferrari. Mais c'est quand même le seul qui le fait aussi bien de tous ses collègues, quoi. Je trouve que Alonso mérite plus d'être triple champion du monde, par exemple, qu'un Vettel.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est sur cette course-là, on ne peut pas non plus juger sur cette course-là par rapport à ce que fait Alonso en général. On est aussi obligé de juger par rapport à ce qu'il fait en course. Est-ce que, sincèrement, en course, il mérite d'être deuxième. C'est-à-dire, d'être deuxième, je m'excuse, mais c'est d'être devant soit Hamilton, soit Vettel.
Et je l'ai mis devant Vettel. Je considère que Vettel,
sincèrement, il a rien fait d'autre pour mériter d'être devant Vettel. Mais je suis honnête avec
Vettel,
toi.
Vettel, il a fait quoi? Il a perdu sa place dans la course. Une place dans la course.
Oui.
Voilà. Alonso, il a fait quoi? Oui, il a gagné 5.
Ah, il en a gagné 5 sur un abandon
pour deux mecs qui se battent pour le championnat à deux courses de l'arrivée, à l'un qui a une voiture qui est deux fois supérieure à l'autre.
Oh non, pas deux fois supérieure, arrête.
J'exagère un peu, quoi, mais
Non, mais c'est pareil, quand tu dis qu'il a une voiture meilleure, faut aussi comparer en qualification, la différence entre Vettel et Hamilton, c'est en dixième, je crois que ça se compte.
Ouais, zéro.
Donc voilà, il s'est pas non plus fait dépasser, il avait pas non plus forcément une voiture atomiste ce week-end. En plus, il avait une vitesse de pointe qui était parmi l'une des plus mauvaises. Enfin, je crois même sur dimanche F1, il y a des mecs qui ont dit, ouais, non, au bout de deux tours, je crois que c'est Jabou, il a dit au bout de deux tours, la Mercedes va être derrière, la McLaren va être derrière, il va le dépasser, on reverra plus Hamilton. Bon, c'était un peu fumé de la beuh, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, je pense que Vettel, il a fait une grosse course, solide, un gros duel, mais qu'à un moment donné, voilà, face à la McLaren et à un Hamilton qui était en feu et une McLaren qui était quasiment du niveau de la Red Bull ce week-end, entre les mains de Hamilton. Voilà.
De toute façon, Vettel, il a pas fait le con, hein. Alors que,
tant qu'il est devant Alonso, ça fait son jeu, quoi. Oui. Je pense
que... Non, c'est clair.
Allez, troisième place, il a marqué 1081 points, ça s'est pas joué finalement à beaucoup. Eh bien, c'est Felipe Massa, qu'on a tous les trois mis troisième, et c'est le deuxième qui m'a vraiment impressionné ce week-end.
Tu remarqueras quand même qu'il dit que les gens sont des mesquins, ouais, parce qu'ils ont râlé, oh pauvre Massa qui s'est sacrifié et compagnie. Résultat, on regarde le top 10, Massa qui fait vraiment une course fantastique,
oui, voilà, c'est...
qui revient de la 11e place et tout, voilà. Alonso qui fait une course, un beau départ et compagnie. Au final, il y a
15 points.
Il y a que 15 points qui les séparent.
Ah ben voilà.
Moi, je... Attendez. Superbe course de Massa, quoi.
Ouais, ça clairement. Ouais, clairement.
Et c'est pour ça que je préfère qu'on le sacrifie directement dès les qualifs.
Ouais. Au moins, ça.
Parce que ça aurait été dommage avec sa course. Ça aurait été dommage de lui demander de s'incliner devant Alonso en ayant fait une belle course, parce qu'il avait les moyens de faire une belle course. Donc, ça aurait été dommage qu'on lui demande de sacrifier pour le podium. Là, au moins, c'est fait dès les qualifs. Il y a pas de voilà. Et puis, au final, il en ressort gagnant parce que tout le monde sait que il l'a fait et qu'il s'est sacrifié et compagnie. Donc, finalement, tout est bénéfice pour lui.
Exactement. Surtout qu'il a fait.
Vous avez vu comment je rattrape le truc.
Il a réussi à se tenir à l'écart des ennuis au début et faire un bon départ.
Ouais, et puis il a fait des beaux dépassements, enfin son dépassement sur Raikkonen. Bon, il profite du fait que Raikkonen soit sur le vibreur, mais voilà, faut tenir la position.
Et non, il a fait une course deuxième meilleur temps de la course.
Mais les Ferrari, c'est juste à un moment donné, elles sont à la rue, elles sont à 30 secondes. Ouais. Et là, il y a une couche de super tendre. Et en fait, sous le pneu dur, il y a une couche de super tendre.
Allez, deuxième place, 1133 points. C'est Sébastien Vettel que...
Moi, j'ai tout dit.
Jérémy lui a donné 12 points et Dino et moi, 18.
Alors, Shinji, que penses-tu de la course de Vettel? Parce que nous, on a tout dit. On va laisser la parole. Que penses-tu de la course de Vettel?
Ça m'a paru logique, finalement. Parce qu'en effet, dès les qualifs, c'était très serré. Et quand tu vois sur la course, il a jamais réussi à prendre de l'écart sur Hamilton. Donc finalement qu'il ait été rattrapé et doublé, logique.
Surtout qu'il a failli être rattrapé deux fois. Enfin, il aurait pu être doublé déjà même plus tôt dans la course, sans une erreur d'Hamilton.
Oui. Après, quand il se fait doubler, j'ai envie de dire, ça reste un Grand Prix tranquille pour lui, parce qu'il fasse un ou deux, comme tu l'as dit, à partir du moment où il est devant Alonso, voilà quoi. Il a pas à s'inquiéter.
L'essentiel du boulot est fait.
Ouais. La plus grosse inquiétude, je pense, surtout, c'était la fiabilité. Surtout quand Weber...
Quand
ils ont vu que Weber avait des soucis, voilà.
Mais Weber, il faut le garder hein, pour Red Bull, hein, parce que le mec, c'est le parafoudre. Hein.
C'est même limite bizarre.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de guerres, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Ah ouais, incroyable.
C'est bizarre, ça n'arrive vraiment qu'à lui. Je fais partie de ceux qui disent non mais arrêtez avec vos stratégies de contrôle et compagnie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est quand même obligé de se poser la question pourquoi c'est tout le temps Weber qui a des pépins de merde sur sa bagnole.
Est-ce que c'est des trucs différents sur la voiture de Weber et ils le disent pas ou c'est quoi le secret quoi?
Mais alors ce qui est étonnant c'est que autant tu vois il aurait des pépins et à chaque fois ça arrangerait Vettel. On se dirait ouais bah c'est une
non mais Vettel est devant.
Et le problème c'est que c'est complètement indépendant de ça.
Ouais Vettel est devant déjà.
Parce que là, au contraire, ça a aidé Alonso. Il est monté sur le podium grâce à ça.
Sinon, on passe à la première place.
Mais qui est-ce donc?
Bien, c'est Lewis Hamilton, 1892 points. Donc, il était quand même bien au-dessus. Autant en dessous, c'était quand même relativement serré. On l'a tous les trois mis premier. Superbe course. Il avait la meilleure voiture.
Ouais.
Voilà. Il a raté la qualif. Franchement, il a vraiment raté la qualif. Parce que je pense que, voilà, il aurait dû être premier sur la qualif.
C'est difficile de savoir.
Mais Vettel a aussi dit qu'il avait fait des petites erreurs, qu'il avait perdu un peu de temps.
Ah oui, quand même.
Il a déjà fait une bonne qualif et la course, il a fait une très très bonne course. Et mais je crois que on voit qu'il s'est rendu compte que là, c'est maintenant ou jamais pour les gagner, hein, que ça risque d'être difficile.
Et c'est assez bizarre, mais j'ai l'impression que d'être derrière, mais ça c'est pas une surprise avec Hamilton, d'être derrière, d'être dans l'impératif d'aller chercher la victoire, ça le galvanise. Ouais. J'ai l'impression que pour qu'il ait de bonnes chances de gagner, il vaut peut-être mieux qu'il soit deuxième que premier.
Ouais, mais regarde à Abu Dhabi,
parce que ça lui donne un lièvre.
Il est parti premier, c'est pas parce qu'il y avait un lièvre ou pas qu'il a abandonné.
Oui, non, mais il est moins impressionnant. Il est moins alors c'est peut-être aussi parce que du coup il y a pas de.
Mais t'es toujours plus impressionnant quand t'es deuxième et que tu doubles.
Mais non, mais regarde Vettel. Vettel, quand c'est le premier, il part en tête, il est impressionnant.
Il y en a qui trouvent que c'est moins impressionnant que d'autres.
Ouais. Ouais,
c'est le style de pilotage de Hamilton qui est aussi très agressif tout le temps.
Oui. Mais ça se voyait bien ce week-end avec les caméras. Bon, les caméras étaient pas forcément géniales ce week-end. À part les vues aériennes avec les hélicos et tout. Mais sinon, les caméras, je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être des améliorations. Mais bon, ça se fait à chaque fois. Il faut peut-être augmenter aussi le nombre de caméras. Mais, les caméras aériennes montraient bien, justement, il était intéressant parce que ça montrait bien les différences de pilotage entre Vettel et Hamilton. Et là, pour le coup, vraiment on comprend ce que ça veut dire un style de pilotage. Hein, c'est rare quand on a l'occasion de le voir aussi bien, et là on a pu le voir avec deux styles très différents.
Vettel, très académique quand même.
Bah, Vettel, il a un style qu'on
c'est propre,
qu'on compare souvent à celui de Button. C'est un style très économe, très efficace. Là où Hamilton, il a un rythme qui est beaucoup plus rentre dedans.
Ah, rock'n'roll, hein, ça passe sous sa casse.
Sauvage, qui est beaucoup plus brut, quoi.
Ah, ça passe sous sa casse, hein, lui. Quand il rate le freinage, il est déjà à moitié de, c'est trop tard pour lui, parce que comme il est déjà tout, il freine plus tard que les autres, il accélère différemment, et c'est différent, quoi. Et c'est sympa aussi. Tout ça pour dire qu'il a fait une très belle course.
Avec une bonne McLaren.
Exactement.
C'est vrai.
Mais qu'il en profite un peu, le petit, parce qu'avec la Mercedes.
Il a plus qu'une chance, hein.
Et voilà, quoi.
Allez, au niveau des classements, eh bien, ce soir, nous n'avons pas de champion au classement du SAV.
Oh, c'est ballot. Oh.
Puisqu'au classement des pilotes, Alonso est à 268 points, Vettel à 264.
Attends, c'est leur scénario. Non, on fera pas de scénario.
Là, 4 points, c'est trop proche. Ah. Classement des équipes, Red Bull 412, Ferrari 378, McLaren 373. Logiquement, ça devrait être Red Bull, mais bon.
Oh putain, il va falloir qu'on leur envoie un diplôme.
Ah non, pas cette année. Hein. Ils vont
cette année,
on vous dit tout de suite. Hein. Dans l'autre classement, donc, Vettel est à 273 points, Alonso à 260. Alors, il y a un article hein, sur FanF1 qui parle justement de tous les cas de figure hein, pour ce dimanche. Pour résumer, Vettel, s'il finit dans les 4 premiers, il est champion. Alonso doit être sur le podium pour espérer être titré.
Et même s'il est sur le podium, c'est pas encore gagné.
C'est pas sûr. C'est Vettel qui a les clés. À noter, donc, troisième, Raikkonen 206, et Hamilton qui est quatrième à 190. Donc, la troisième place de Raikkonen, c'est pas forcément complètement assuré.
Ouais. Oh, ça devrait le faire aussi.
Chez les constructeurs, donc, Red Bull a été titré à 440 points. À noter que Ferrari est à 367, McLaren à 353. Et bon, une deuxième, troisième place au niveau finance, hein, on sait que c'est quand même plusieurs millions de dollars.
Mais c'est bien, c'est que tout reste ouvert encore. Même la dixième place reste ouverte, parce que s'il pleut, voilà, hein, chose, on peut très bien avoir une course à hécaton, mais pourquoi pas avoir une KTM qui sera onzième.
Tout à fait.
Ou douzième. Donc voilà, rien n'est impossible.
Allez, on va passer au fait marquant. Donc on vous avait demandé quel était le fait marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi. Vous avez été 133 à voter.
Bravo.
Moi je pense que voilà qui a gagné a beaucoup influencé quand même hein. Puisque 12 votes Vettel repasse par la casse tente 9%. 16 votes l'envol de Rosberg enfin 12%. Et enfin 105 votes, c'est énorme. 78% Kimi Wattels.
Ah.
Donc Vettel repasse par la casse tente, c'était qui?
C'était pas moi.
C'était pas moi parce que je crois que c'était toi, c'était attends.
Moi c'était Kimi Wattels.
Voilà, et moi c'est ce que j'avais piqué l'envol de Rosberg.
Voilà.
Donc c'est à Jérémy.
Est-ce que je veux gagner ou est-ce que je veux... Alors, on va dire
fais-le pour la gagne.
Ah oui.
Pour la gagne.
Ça m'arrange.
Pour la gagne. Non mais Raikkonen n'a pas fait un grand prix assez impressionnant, même malgré sa fanbase, je crois pas faire quelque chose. Hamilton nous donne du suspense et du plaisir. Du suspense pour le championnat et du plaisir pour sa victoire. Quelque chose comme ça.
Tu veux du suspense et du plaisir ou du plaisir et du suspense?
Du plaisir et du suspense, ça fait un peu plus hot, on va dire.
Shinji?
Un très bon Massa malgré les embûches. Voilà, comme ça, tous ceux qui veulent faire chier, qui sont pas contents de ce qui s'est passé avec Ferrari, pourront... Voilà.
Moi, j'hésite entre Alonso qui maintient ses espoirs de titre, En sachant que Alonso a une bonne fanbase généralement lors des faits marquants, mais je m'arrêterai peut-être plutôt sur le contexte du circuit. Je dirais un Grand Prix à guichet fermé pour le retour aux États-Unis.
Ouais, ça c'était bien aussi.
C'est vrai, c'est
ça c'était bien aussi.
Avec ce magnifique podium.
Voilà, moi je trouve que le podium était magnifique, le public autour, voilà. Et surtout, nous qui regardons beaucoup la NASCAR et actuellement aussi l'IndyCar, il y avait vraiment du monde. Moi j'ai vraiment retrouvé cette ambiance américaine qu'on aime voir. Et puis surtout dans un état du Texas où il y a des courses. Vous le rappelez, Texas c'est
Texas Motor Speedway.
Voilà, il y a des courses en NASCAR. Enfin voilà, ils savent ce que c'est que le NASCAR, ils savent ce que c'est que l'IndyCar. Donc là-dessus, il y a pas de problème, quoi. Donc.
Mais le coup des Stetson sur le podium, c'était une vraie surprise.
Ouais, mais c'était sympa.
Et c'est surtout une très bonne idée, je trouve, pour se mettre le public américain dans la poche, quoi. C'est dire, voilà, vous voyez, un petit clin d'œil. On adapte nos codes, on les adapte à vous.
Je trouve que... Moi, je veux que maintenant, tous les ans, voilà, ils aient les Stetson, hein.
Mais c'est là aussi on voit à quel point les États-Unis c'est vital et important pour la F1, pour les pilotes, pour tout le monde, et vraiment c'est un poids historique. Et c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est que on a un nouveau Grand Prix, et ça fait un bac, on a un nouveau Grand Prix sur un pays historique de la course automobile.
C'est complètement plus légitime d'avoir un Grand Prix aux États-Unis que dans d'autres pays.
Mais voilà.
Il paraît que Bernie regarderait du côté de Los Angeles.
Voilà, c'est ça. Côte Est, côte Ouest et Texas, qui est pour le Mexique et compagnie. Parce que le Mexique, ils ont pas de Grand Prix non plus. Quand on regarde l'Amérique latine, entre le Venezuela, les Brésiliens, le Mexique et compagnie, eux, ils ont que le Grand Prix du Brésil pour tout cela, quoi.
Ouais.
Et je veux dire, c'est quand même
oui,
aussi...
Oui, mais j'ai même envie de te dire, c'est quasiment même plus important, finalement, si tu devais choisir, vous voudrais peut-être mieux faire un Grand Prix
où il est placé,
aux États-Unis qu'au Brésil. Parce que, finalement, au Brésil, il y a très peu d'immigrés des autres pays avoisinants.
Là, par rapport au
là, qu'ils ont. Là où aux États-Unis, parce qu'il y aura jamais le Grand Prix au Mexique peut-être, mais au Venezuela, il y en aura certainement pas. Mais par contre, aux États-Unis, t'as d'importantes communautés sud-américaines, et finalement, avoir un Grand Prix aux États-Unis, comme là ils l'ont fait au Texas, c'est une bonne idée, parce que du coup, tu t'attires non seulement le public américain, mais aussi tout le public de l'Amérique latine.
Exactement.
Là où je pense sincèrement qu'il y a quand même très peu de pays latino-américains qui reconnaissent le Grand Prix du Brésil comme un Grand Prix national.
Ouais,
je pense que si tu demandes aujourd'hui aux Vénézuéliens ou aux anciens pilotes argentins, le Grand Prix du Brésil, déjà c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, puis c'est pour certains pays c'est aussi un rival économique et compagnie, c'est pas la même chose. Là où vraiment aux États-Unis, t'as des communautés, t'as des minorités et compagnie qui sont en place, et avec les échanges entre les pays, ça peut vraiment avoir l'air d'un Grand Prix national pour eux, comme ça l'a été le cas pour Pérez.
On passe au concours, Dino ?
Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position, rappelez-vous, il y a 15 jours, Rémi nous posait la question suivante. Sur quel circuit a-t-on organisé le plus de fois un Grand Prix des États-Unis et qui a été le plus victorieux sur ce circuit ? Alors, vous avez la réponse ou pas ?
Je pourrais donner une proposition de tête pour le circuit.
Ouais, vas-y, de
tête. Watkins Glen ?
Eh ben, c'est Watkins Glen,
ah,
bravo.
Ouais.
Alors, avant le retour de la F1 aux États-Unis, à Austin, hein, il y a eu donc 33 Grands Prix des États-Unis, la dénomination Grand Prix des États-Unis, sans le S, sans le West derrière, entre 1959 et 2007. Le premier a été disputé sur le circuit de Sebring, et le théâtre d'ailleurs de la première victoire de Bruce McLaren en Formule 1. En 1960, la Formule 1 quitte la Floride et la côte Atlantique pour la Californie et la côte Pacifique, sur le circuit de Riverside, qui aujourd'hui n'existe plus, avant de poser ses valises non loin de New York sur le circuit de Watkins Glen, avant d'accueillir le Grand Prix des États-Unis Est à partir de 1976 et jusqu'en 1980. Le Glen aura donc accueilli 15 Grands Prix des États-Unis entre 1961 et 1975. Il faudra cependant attendre 1984 pour avoir à nouveau un Grand Prix des États-Unis, cette fois-ci sur des circuits urbains, d'abord à Dallas en 84, Grand Prix mémorable, puis à Détroit de 85 à 88 et enfin à Phoenix de 89 à 91. La F1 fait son retour en l'an 2000 à Indianapolis, cette fois-ci pour 8 éditions, et cette fois-ci c'est pas pour les 500 miles d'Indianapolis, c'est pour le Grand Prix des États-Unis. Donc, sans compter les autres Grands Prix organisés sur le sol américain, et même en les comptant, de toute façon, ils seraient devant, c'est le circuit de Watkins Glen qui a accueilli le plus de Grands Prix dits des États-Unis, et côté pilote, c'est Jim Clark et Graham Hill qui sont tous les deux imposés à 3 reprises, respectivement avec Lotus et BRM. En fait, ils ont trusté les victoires entre 62 et 67.
D'accord.
Voilà, c'est Lotus en 62 Clark en 67, en 62, Graham Hill les trois années suivantes, et en 66-67, c'est Clark. À noter quand même qu'en comptant tous les Grands Prix des États-Unis,
ça en fait un paquet. Donc,
encore une fois, la dénomination Grand Prix des États-Unis, ce sont Ayrton Senna et Michael Schumacher qui comptent le plus de victoires. 5. Le Brésilien sur les circuits de Détroit et de Phoenix, et Michael Schumacher à Indianapolis. Voilà. Et d'ailleurs, si on compte tous les grands prix sur le sol américain, ce sont les deux recordmen. Ouais. Voilà. Alors, on a eu 3 réponses. 2, à ma connaissance, tu n'as pas participé.
Non. J'étais débordé un petit peu, là, depuis 10 jours. J'avais pas eu trop le temps.
Donc, tu vas pouvoir aider Shinji.
Oui.
Et à noter, Shinji, vous pourrez gagner non seulement le petit ticket pour le tirage au sort final, mais vous pourrez également gagner la casquette du futur champion du monde. Mm-hmm. Donc, faudra pas rater cette question.
Hein.
Donc, messieurs, je vous lis les 3 questions. On a eu des bonnes réponses. Hein. Combien de pilotes brésiliens sont montés sur au moins un podium durant leur carrière? Question suivante. Combien de titres pilotes ont été décrochés lors d'un Grand Prix du Brésil? Et enfin, en Formule 1, et uniquement en Formule 1, combien font le nombre d'engagements en Grand Prix de Rubens Barrichello, moins le nombre de victoires de Nelson Piquet, moins le nombre de pole positions d'Ayrton Senna, plus le nombre de victoires d'Ayrton Senna, moins le nombre de points d'Emerson Fittipaldi, plus la position finale au classement des pilotes de Massa en 2008? La question super facile.
J'aurais une préférence pour un ou deux, disons, pour pas avoir mal à la tête le jour où je
voudrais
la question.
Ouais, puis comme c'est dès dimanche, voilà.
Je choisirais...
Bah moi, je serais bien tenté de prendre celle sur les champions du monde, vu qu'on va filer une casquette.
Voilà, exactement. Ça, c'est plus intelligent, entre guillemets, plus adéquat.
C'est dans la thématique.
Ça reste dans la thématique.
Exactement. Puis en plus, c'est totalement adéquat pour cette année, quoi. Donc, est-ce qu'on compte cette année, d'ailleurs?
Non, on n'en compte pas cette année.
Bah, de toute façon, ça arrivera cette année aussi. Quand il arrive.
Oui, mais comme la question est faite avant, le Grand Prix n'ayant pas... Il suffirait que le Grand Prix n'ait pas lieu.
Non, mais voilà, mais au moment où on va répondre à la question.
Voilà.
Au moment où on répond à la question.
Il suffit qu'il y ait un orage et que le Grand Prix soit annulé. À ce moment-là, c'est le Grand Prix des États-Unis qui a été décisif.
On inclut cette année ou on n'inclut pas cette année?
On va reformuler la question, si tu veux, en dehors de cette année.
Voilà.
Combien de championnats se sont...
Donc, on part sur cette question-là.
Voilà,
se sont joués au Brésil.
Donc, on va féliciter Steve, qui gagne donc un petit bout de papier pour le tirage au sort final. Et donc, il pourra pas gagner la casquette.
Ah oui.
Puisqu'il il peut pas répondre à sa question. C'est un peu couillon. Mais c'est pas grave, Steve. Ça se trouve, tu gagneras le lot à la fin de l'année.
Noble sacrifice.
Et donc, pour répondre à la question qui est la suivante, en dehors de cette année, combien de titres pilotes ont été décrochés lors d'un Grand Prix du Brésil? Il vous suffit de nous envoyer un mail avec la bonne réponse sur l'adresse contact@savf1.fr. On vous demande donc le nombre de pilotes. On va également un peu corser la tâche quand même pour que vous méritiez vraiment cette casquette. On va vous demander aussi donc de nous donner les années et puis aussi de nous donner les pilotes qui étaient en lice pour le titre en arrivant sur ce Grand Prix, donc à la fois le champion, mais aussi ceux qui pouvaient également espérer avoir le titre. Et donc pour répondre, vous avez jusqu'au mardi 27 novembre, 19h. Vous pensez bien évidemment à nous joindre à votre réponse une question pour que nous puissions vous départager. Et pour cela, la question que l'on va vous demander, ça va être comme thème, on va choisir. On va vous demander, comme on va sacrer un triple champion du monde, trouvez-nous une question sur les triples champions du monde en Formule 1.
Dimanche, vous saurez quelle couleur est la casquette.
Et voilà, et voilà, pour l'un d'entre vous, il y aura une casquette, soit de Fernando Alonso, soit de Sébastien Vettel. Voilà.
On va passer à la prochaine course, donc dès dimanche, le dernier Grand Prix du Brésil. Et c'est toujours un grand prix, le Grand Prix du Brésil, parce qu'il y a une formidable ambiance, c'est la fin de saison. Mais peut-être qu'encore une fois, vous avez très mauvais goût.
Non, Shinji, on va quand même, pas trouver 7 raisons de regarder le Grand Prix du Brésil. Il y en a une, ça suffit. Même si les gens n'aiment pas la F1, il y a une raison qui fait qu'on le regarde, quoi. Les brésiliennes.
Écoute, il y a des gens qui ont très mauvais goût.
Mais justement, je rejoins pour les brésiliennes.
Même ceux qui n'aiment pas les brésiliennes.
C'était ma première réponse, tu vas voir.
Il y a les brésiliens.
C'était ma première réponse aussi.
C'est vrai. Oui, mais pour les gens qui sont aveugles et de mauvais goût.
Ah bah dans ce cas-là, il nous faut l'aide de Jérém.
Voilà, il faut l'aide de Jérém.
Ah, Jérém, en personne aveugle et de mauvais goût, là, il est battu.
J'ai ce qu'il faut. J'ai de quoi les occuper. Alors
Jérém, nous t'écoutons.
Du coup, j'ai donc préparé les 7 choses à faire. Donc, la première chose, justement, pour ceux qui aimaient les Brésiliens et les Brésiliennes, j'ai dit, comme on était au Brésil, à la plage, pour eux, quoi. Ah, ils sont toujours à la plage, les Brésiliens, quoi. On peut aussi aller, si on est toujours dans l'Amérique latine, on peut aller aussi au Venezuela pour faire du lobbying, pour que PDSFA arrête de sponsoriser Williams et que Maldonado ne fasse plus Formule 1.
Il aime pas Maldonado.
Non, je porte dans mon cœur, je l'ai dit depuis le départ, je l'assume, quoi. C'est bon. On peut aussi préparer son char ou son costume pour le carnaval de Rio, qui va arriver en février, donc, hein, on sait jamais, quoi. Ah oui. Si on est au Brésil et tout, pendant qu'on y est. Si on est à pied, bon,
Aussi. Dans ce cas-là, quand même, ça veut dire qu'on est au Brésil pendant une longue période.
Ah, mais on peut, hein. C'est, il y a les habitants au Brésil. Parce que ça, sont des habitants aussi au Brésil, pas que des touristes, hein.
Oui, non, mais est-ce que les Brésiliens nous écoutent?
On sait jamais.
Peut-être. Parce que autant les gens qui n'aiment pas la Formule 1.
Eh ben, il y en a qui vont quand même aller au carnaval.
Mais est-ce que les Brésiliens nous écoutent? Je suis pas sûr.
On peut aller se mettre en chemin pour le Brésil, si jamais, mais bon, tu m'as dit non. Pour certains, comme qui plutôt en Europe, on peut faire des bananes de Genève bientôt, qui commencent bientôt même à arriver en Suisse dans les montagnes et compagnie. On peut même aller faire du karting. T'aimes pas la Formule 1, mais tu peux aller faire du karting en parallèle. Tellement t'es maso, quoi. S'il y a une piste de karting ouverte ce jour-là, à ce moment-là.
C'est... Oui, non, mais c'est vrai que faire du karting de loisir.
Non, voilà. Personne, je pense.
C'est pas obligé d'être passionné.
Parce que je crois que personne ne l'a cité encore, cette chose-là, quoi. Sinon, on peut carrément ne pas aimer la Formule 1, mais on peut quand même relire le règlement de la F1 pour être au top pour 2013. Sur toutes les questions de règles et autres, comme le fond Ferrari et Red Bull. Hein.
Puis ça peut peut-être vous permettre d'être embauché par McLaren.
Voilà, on sait jamais, eux, ils ont...
Visiblement, ils ont besoin de quelqu'un qui...
Ils savent pas trop comment ça. eux, ils sont gentlemen. La F1 est un sport de gentlemen, ils la jouent à la gentleman, mais bon, ils ont pas compris,
ouais,
quoi.
Ouais, mais ça rapporte
pas. Il y a plus qu'eux qui sont gentlemen en Formule 1. Et encore,
t'es gentleman ou t'es champion, bah voilà, ils ont choisi.
Même si t'aimes pas la Formule 1, bah du coup, tu peux quand même jouer à la console, de préférence à Gran Turismo, F1 2012 ou autre jeu de voiture, hein.
Pardon. Alors, comme si t'aimes pas la F1.
Non, quoi, mais F1, voilà, t'allumes ta console le dimanche et tu fais du jeu de voiture au lieu de regarder la Formule 1. Et puis, dernière machin, vu que je suis quand même aussi dans l'IT et toujours fasciné, tu peux remonter une machine Windows 95. Pourquoi machine 95? Parce que, à l'époque, je me souviens d'un jeu de Formule 1, qui était un jeu de simulation de Formule 1, dans lequel, en fait, t'étais le directeur d'écurie et tu choisissais tes pilotes, tes moteurs, tes ingénieurs, ton budget pour allouer, tu négocies des contrats publicitaires. Voilà.
Et donc sinon, pour vos pronostics sur la prochaine course?
Qu'il pleuve.
C'est difficile parce que le pronostic sur la prochaine course, ça implique donc des conséquences sur le championnat.
Ah oui.
Et...
Exactement. Ah, moi je te dis, une victoire d'Alonso pour finir, ça serait pas mal. Non, mais ça veut pas forcément dire qu'il gagnerait, mais...
Oui.
J'allais dire, il s'engage pas non plus encore à fond, quoi.
Massa, allez, une victoire de Massa.
Non, moi je suis pour une victoire de Barrichello. Comme il est hijack voiture et c'est bon.
Sinon, quitte à être craqué, une victoire de Schumacher.
Voilà. Mais il va y avoir une spéciale pour la dernière, ils l'ont annoncé.
Voilà, ils ont annoncé qu'il fera un truc spécial. Si ça se trouve, c'est tout le monde va partir avec les pneus crevés, sauf Schumacher.
Allez, on arrive à la fin de cette émission.
Ouais.
Enfin.
Merci Jérémy de nous avoir accompagnés.
Merci.
Merci de m'avoir supporté.
Ah. Oh, ça a été dur.
J'imagine.
Allez, comme d'habitude, on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France. Pour ce qui est du répondeur, on va reprendre ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est-à-dire que si vous avez des questions, mais dans ce cas plutôt sur la saison qui vient de s'écouler.
Oui, ou même des remarques.
Voilà, hein, ou des remarques, tout à fait, voilà.
Vos impressions même après le verdict du championnat, si vous avez des réactions, on essaiera de les transmettre et de débattre un peu, de faire un peu le résumé de la saison. Même si on fera un résumé complet via les SAV d'or.
Aussi, oui.
Mais voilà, on fera déjà avec tous nos chroniqueurs, on fera déjà un petit résumé de l'actu et aussi on reviendra un peu sur la saison.
Ouais. Voilà. Juste noter, puisque c'est vrai que la semaine dernière il y avait les Golden Blog Awards, donc on n'a pas gagné, mais on était finaliste.
Ouais.
Hein, donc merci, hein, tout simplement à tous ceux qui.
Alors, tu vois Kevin Razi, tu nous regardes bien là, Kevin. Voilà. Razi. Tu nous entends, Kevin Razi. La prochaine fois que tu passes en direct à On ne demande qu'à en rire, je te donne un zéro, tu vois, un zéro, parce que pas avoir voté pour nous, je sais
en
même pas
si t'as voté
pour nous, mais pas avoir fait qu'on gagne, pas avoir soudoyé tous tes camarades et tout, ça c'est une note de zéro, donc t'auras un zéro.
Mais sinon voilà, merci, voilà, même si c'était une bonne soirée, le champagne était bon, mais.
Non mais voilà, juste merci pour ça aussi. Merci parce que moi j'y étais pas, mais merci parce que Shinji a aussi pu profiter. Shinji et d'autres personnes qui sont allées par eux-mêmes, mais du fait de la présence du SAV, de nous avoir emmenés là-bas, Shinji a profité d'une super soirée et j'aurais pu en profiter aussi si j'avais pu y aller. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir donné aussi cette opportunité de passer une bonne soirée.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dino?
Non, à part que la F1 sur Internet, c'est sûr.
Fan F1? et que le SAV de la F1, c'est
le Ritz des podcasts.
Ou la famille, ça dépend. Hein, ça dépend des semaines.
D'ailleurs, Shinji, je crois que tu es enceinte.
Ah bon, quoi?
Je sais pas. L'idée me dit que la famille, bah, peut-être ça.
Pourquoi ce serait moi qui serais enceinte?
On va faire un sondage.
Non.
Qui a la voix suffisamment aiguë pour faire
ta gueule? Allez, on vous souhaite une bonne course, hein, en espérant qu'elle soit vraiment digne de ce qu'on connaît avec le Grand Prix du Brésil.
Il va y avoir gros gens qui va cartonner à l'ombre dès le départ et ce sera mort.
C'est possible aussi. Et on vous laisse. En plus, lors de la dernière émission, vous en aviez pas eu. Là, vous allez avoir un petit moment de poésie.
Oui. À moins que t'aies prévu de chanter un hymne.
Ah non, pas cette semaine.
Donc oui, cette semaine, nous sommes au Texas. Qui dit Texas dit Walker. Qui dit Walker dit Texas Ranger. Qui dit Texas Ranger dit Cowboy. Qui dit Cowboy dit chevaux. Et donc, je vous ai fait un petit proverbe sur le cheval.
C'est génial.
Et ce proverbe est le suivant. Lorsque le cheval se distingue, il ne doit pas oublier que c'est au bœuf qu'il doit son orge.